Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Et l'after continue jusqu'à minuit ici en direct du Qatar. Il est 22h02 en France, minuit 2. Ici à Doha jusqu'à minuit et ensuite jusqu'à 1h du matin avec la Libre Antenne. Vous connaissez la mécanique désormais pendant la Coupe du Monde, Libre Antenne qui vous permet de venir en studio à Paris avec Nico Villas et Thibaut Giangrande. Vous envoyez un mail pour cela à l'adresse suivante standard@rmc.fr. vous êtes tous les bienvenus. Daniel Riolo est là de retour. Salut Daniel.
Salut Gilbert, salut les amis.
Avec Stéphane Guy. Salut Stéphane.
Salut Gilbert, bonsoir à tous.
Oh, bonsoir. Alors l'after est là. Oui, t'étais là pendant le match. On t'a écouté attentivement. Déroulé notamment des stats et tout. On t'a écouté. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense. Tout va. Donc on a des invités ce soir ici au Qatar, deux supporters de l'équipe de France, Richard et Benjamin. Benjamin, bonsoir.
Bonsoir.
Richard, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir aux afteriens, bonsoir aux expats afteriens.
Ah, parce que toi, tu écoutes l'after ici au Qatar, toi.
Alors moi, ça fait 5 ans et demi que je suis au Qatar et je suis un afterien du podcast du matin.
Et quand il a su qu'il y avait Daniel et Stéphane, qu'est-ce que tu m'as dit, Richard ?
J'ai dit, vous les avez comme pas mis dans le même studio.
Il y a une table, il y a la table est là.
Je suis étonné d'avoir Daniel devant moi. Je pensais qu'il avait demandé l'asile politique au Qatar. Je comprends plus rien à cette Coupe du Monde. Je suis étonné qu'il rentre à Paris avant la fin. Je comprends pas.
Mais l'asile lui a été refusé, peut-être.
Peut-être. Ah ben, de toute façon, on peut pas avoir la nationalité, c'est pas possible.
J'ai vu ce que j'avais à voir.
C'est le droit du sang qui prévaut.
J'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai vu les supercheries qu'on nous a racontées et les mensonges qu'on nous a racontés.
Je suis d'accord avec toi, Daniel. J'ai vu ce que j'avais à voir. Ça fait 5 ans et demi que je vis et je travaille ici. Je suis d'accord avec toi.
Les gens parlent sans savoir.
On va évidemment dans l'after ce soir analyser les matchs du jour. D'ailleurs, Florent Germain est encore.
Si tu veux, Gilbert, moi je veux bien, je suis prêt, mais c'est peut-être.
Non, permets-moi de faire d'abord mon sommaire.
Ça intéresse beaucoup de gens, contrairement. Non, personne. Dans ton monde à toi, mais ça n'intéresse personne en vrai.
Ouais, mais mon monde, il n'est pas si petit, Daniel.
Il est tout petit.
Oulala.
Ah bah, il est tout petit dans le monde entier.
Le Qatar est tout petit, mais en France, c'est un sujet qui intéresse les.
Ah oui, en France, la France.
Tu peux faire le sommaire, les gars.
Tu rentres d'où, Daniel? Tu rentres du. T'as fait le tour du monde ou t'es allé au Qatar?
Mais le monde était là-bas justement.
Ah oui, je suis pas. Sûr.
Ah, le monde
sûr.
Était là-bas.
Ah, le monde
mais
était là-bas.
Tu sais rien d'accord. Parce que t'es ici, tu peux pas savoir.
Oui, je suis ici.
Non, on sait.
Ah, tu sais.
Bon, eh oui. Vous voulez savoir de quoi on va parler, les gars ?
On va parler foot.
On va parler foot, oui, avec l'analyse des matchs du jour. D'ailleurs, Florent Germain est encore là, on va aller le voir dans quelques secondes. Et puis l'équipe de France qui joue demain face à la Pologne, la compo et vos avis sur les Bleus à tous, bien sûr. Flo, t'es toujours au stade là. Il y a une scène de joie argentine qui sont toujours en cours. Qu'est-ce qui se passe? C'est d'habitude, il y a la communion entre joueurs et supporters et tout.
Exactement, non, mais le match il est fini quoi depuis une bonne dizaine de minutes et ils ont savouré souvent autour de Lionel Messi et dans un stade où la plupart des supporters argentins, enfin quasiment tous, sont encore restés. Ils ont chanté les 2-3 chansons qu'on entend un peu partout dans le métro ou dans le vestiaire, ça dépend si ce sont les supporters et les joueurs qui la chantent. Mais
j'espère que tu la connais par cœur maintenant, Flo.
Ouais, il y en a une ou deux je connais. Ouais. Mais les paroles, pour ceux qui ne les comprennent pas, parce que là c'est un petit peu lointain, c'est Quiero ser campeón mundial, quiero ganar la tercera. Et c'est marrant parce que les deux Paul et Papu Gomez, qui sont un peu les deux leaders, un peu, allez, c'est presque les capots du vestiaire, ce sont eux qui se mettent à chanter comme des vrais fans au milieu de la pelouse. Messi est évidemment de la partie. Et on a vu aussi Angel Di Maria, ça devient une info parce qu'il s'est mis à sauter avec ses coéquipiers. Donc quand je dis que c'est une info, c'est qu'il a peur de trop souffrir des quadriceps. Du quadriceps. Donc voilà. Bon. Mais grosse ambiance à un quart d'heure après le final de cette rencontre. Les Argentins, les supporters ne veulent pas quitter ce stade Hamad Bin Ali et mettre le feu. Attention, c'est un peuple qui est en mission. C'est la sensation que ça donne. Il va falloir aller les chercher, les Argentins.
Ouais, bah, peut-être qu'on va en parler, mais peut-être qu'ils sont plus performants dans les tribunes que sur le terrain. On va voir dans quelques minutes ensemble. Bien sûr, en tout cas, on peut considérer que c'est de loin le plus gros contingent.
Que tu m'expliques comment tu peux dire ça ce soir, quoi. À part le premier match qu'ils ont raté, que tu m'expliques où est-ce que les Argentins sont pas parmi les meilleures équipes.
Ils sont pas ce soir, Daniel.
Ils t'ont impressionné. Moi, ils m'ont pas impressionné ce soir.
Ce soir, ils font un très bon match.
À petit rythme.
Ah, peut-être, mais ils font un très bon match.
Ouais, bah, ils étaient meilleurs sur le dernier match de poule, par exemple. On va en parler ensemble dans quelques instants.
Je crois pas parce que les Australiens sont vraiment très très chiants à bouger parce qu'ils jouent en bloc hyper bas avec des lignes très compactes. Avoir mené 2-0, avoir quasiment tout le temps eu le ballon, n'avoir concédé que une frappe, la dernière, parce que le but c'est même pas une frappe cadrée, c'est une frappe tribune qui est déviée. Honnêtement, c'est plus parce que Lautaro Martinez sur la fin a un peu cagué 2-3 occasions. Mais ça peut faire 3-0 beaucoup plus que 2-1 ou 2-2, ce qui aurait été complètement fou d'ailleurs si c'était arrivé. Enfin, y a une domination sans partage, quoi.
Ouais, mais il y a très peu de tireurs argentins, il y a peu d'occasions sur le match, il y a une possession très nette, il y a une domination, mais c'est pas une équipe qui a régalé du tout.
Avant d'entrer dans les détails, bon, déjà Florent, tu peux leur dire qu'ils peuvent rentrer, hein, les Argentins, là c'est bon, c'est fini.
Et moi je vais aller en zone mixte. La zone d'interview avec les Argentins, c'est un spectacle. Hein. Faudra que je vous raconte ça un jour. C'est...
Ah ben, reviens tout à l'heure, si tu veux.
Hein? Ouais, tout à l'heure. Bah, parce que Léo Messi il sort à 1h30 du matin, heure française.
Donc, il fait pendant tout ce temps.
Ben, je sais pas. En fait, c'est un spectacle, donc t'attends 2h30 en général. Et là, tout d'un coup, ça débarque. Ils débarquent tous ensemble. Il y en a un qui arrive un peu en décalé. C'est Léo Messi. Et Léo Messi, il a ses 4-5 journalistes auxquels on sait qu'il va parler. Il y en a une des télés, Véro Brunati, que certains connaissent. Il y en a un des radios. Donc, faut se positionner, faut prendre la perche. Moi, j'ai ma petite perche qui va bien, je suis habitué. Et j'arrive à vous ramener du Messi que vous pourrez entendre demain matin sur RMC. Mais c'est le deuxième spectacle argentin qui commence. Cette fameuse zone d'interview. Alors juste un truc, c'est quand les Espagnols veulent la voir, là c'est foire d'empoigne. Mes collègues de la Cadena Ser, de la Copé, etc.
Ah oui, ils rentrent dans les Argentins, quoi.
Ah mais ils veulent leur Messi. Alors ils l'attrapent par le coude s'il faut, les barrières elles tombent. Enfin c'est une zone d'interview avec les Argentins, c'est exceptionnel. C'est du jamais vu. On voit même pas ça dans des gros matchs de Ligue des Champions. C'est un autre monde.
Bonne bagarre alors. Hein. Et puis tu nous raconteras demain.
Je vous raconterai ça avec plaisir. Ciao les amis.
Salut Florent. On a également du rugby et la fin du match Stade Français La Rochelle. Arnaud Valadon, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Deuxième journée, c'est reparti depuis 3 minutes. On joue la 43e. Le score n'a pas évolué avec cet avantage au score pour le Stade Français. 2-1, 15-14.
Avant de parler de l'Argentine dans le détail, avant de parler des Pays-Bas également dans le détail, dans quelques instants on aura Georges Quirino avec nous depuis Buenos Aires, ensuite à Johan Crochet, notre spécialiste des Pays-Bas pendant cette Coupe du Monde. Un mot des invités qui sont là avec moi dans le studio au Qatar. Benjamin, t'es venu voir les matchs des Bleus.
Exactement, je suis venu voir le match.
Quel est ton projet personnel?
Le match de la Pologne demain.
Ah pourquoi donc?
Bah parce qu'on vient supporter donc justement l'équipe de France et on aura la chance d'assister à ce huitième de finale qu'on attendait avec hâte et pour ma part ça va être ma première participation à un match de l'équipe de France. Contrairement à mon collègue en face qui lui on a déjà fait 10 fois plus depuis le début de la Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai hâte et j'ai bien retenu qu'on attendait beaucoup des supporters français qu'on soit un peu plus présent, donc on mettra de la voix.
Ah oui, les supporters français déçoivent.
Il paraît.
Par rapport à ce qu'ils produisent dans les tribunes, on veut dire.
Parce que sur le terrain, je trouve qu'on est plutôt pas mal.
Oui, ils sont moins nombreux que les Argentins, par exemple.
C'est classique. Hein, on est tellement en dessous au niveau supporters que les Sud-Am, que en plus en nombre que les Africains. On est déjà dans le nombre, on est inférieur. Et après, pour ce qui est de savoir mettre l'ambiance, les chants et tout, on n'est pas très très fort. C'est pas vraiment notre culture.
On avait l'autre soir, Daniel, rappelle-toi avec nous, des supporters qui étaient même un peu déçus parce qu'ils disaient dès qu'on veut pour lancer un chant, un peu de chambrage et tout, il y a les responsables des irréussis français qui disent non,
pas chambré quand même, c'est pas bien. Enfin bon, donc il y a quelques difficultés à créer quelque chose dans les tribunes ici côté français. Alors, tu as de la famille illustre, Benjamin, paraît-il.
Exactement, oui. Donc, tout simplement, j'ai le frère de ma grand-mère, Jean Barat, qui a joué de 44 à 52. Donc on parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître.
En équipe de France.
Exactement. Et qui a même été capitaine de 49 à 52, si je ne m'abuse. Donc bon, lui, il a en effet un peu tout raflé. Il a eu...
La grande équipe de Lille des années 50, ouais.
Exactement. Il a gagné 4 Coupes de France et 2 championnats. Donc il a fait mieux à lui tout seul que moi depuis que je regarde le LOSC depuis 41 ans, en effet.
Bon. Ouais. Et Richard, toi, t'es expatrié au Qatar ici?
Oui, alors moi je suis arrivé au Qatar en 2017. J'ai eu cette chance d'être appelé pour accompagner le programme Rafale. Et en tant que supporter du PSG, c'est quand le Qatar vous appelle, vous pouvez pas refuser. Donc je suis ici depuis 5 ans et demi et une chance incroyable. La Coupe du Monde se déroule dans le pays où j'habite.
Donc tu bosses sur les avions, quoi?
Pas sur les avions, mais on accompagne le programme, ouais.
Voilà. Rappelons-nous que dans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, il y avait eu dans les négociations entre Sarkozy, l'émir et tout, la vente des avions. Mais les Qataris sont sympas, ils ont acheté des avions à tout le monde.
En effet.
Voilà. Ça arrose la terre entière.
Et étant expat sur place, j'en suis à mon 10e match. Et demain, j'ai évidemment le 8e de finale. Et j'ai le pack.
Mais attends, raconte-moi surtout un truc. Vous écoutez l'after entre collègues ici?
Alors, c'est ça. En fait, on est passionné de football. J'ai des amis qui sont supporters de beaucoup d'équipes, dont Steve, supporter de Marseille. On se déchire sur le championnat de France, mais on se rejoint sur l'after et on débriefe l'after.
Excellent, voilà. Les expatriés français qui...
Alors, nous sommes des afteriens du podcast. Hein, parce qu'évidemment, vu qu'on se lève très tôt avec le décalage horaire, on vous écoute dans les bagnoles.
Bon, vous participez au débat avec nous, les gars. Avec plaisir, vous restez tant que vous voulez. Georges Quirino va nous rejoindre dans quelques instants, dans deux minutes, pour parler de l'Argentine, bien sûr. Oui, alors là, on n'était pas tout à fait d'accord sur le rendement. On va voir ce que Georges en pense. Georges, bonsoir.
Salut les gars, je suis au milieu de la foule. Hein. Donc, vous allez surtout entendre l'ambiance, je pense, derrière moi. Ouais, j'étais dans le quartier de Montserrat, dans le centre de Buenos Aires, dans un bar qui s'appelle Locos por el Football, fou de football. Et il y avait des centaines d'Argentins qui ont coupé une rue carrément pour suivre le match avec les tambours, avec les écharpes. Ils sont encore en train de faire la fête ici pour cette qualification.
Il est quelle heure à Buenos Aires?
Ils retiennent surtout. Il est 18h13. Ah donc là c'est le début de la soirée, ici ça va être la fête toute la nuit, tu imagines.
Voilà, est-ce que sur le rendement de l'équipe, tu as trouvé une très bonne Argentine ou une Argentine moyenne ce soir?
J'ai trouvé une Argentine moyenne, ça m'a un peu rappelé le match contre le Mexique, je ne sais pas ce que vous avez vu vous sur cette rencontre, c'est-à-dire beaucoup de nervosité au début du match. Je les ai trouvés aussi un peu en difficulté physiquement à la demi-heure de jeu, et c'est vrai que beaucoup de monde a eu un peu peur ici après cette première mi-temps. Et après, Messi a remis tout le monde sur les rails, quoi, j'ai l'impression surtout. Ici, c'est ce que disent beaucoup les supporters et aussi les analystes, que même si le collectif n'est pas forcément apparu, peut-être comme contre la Pologne, le leadership de Messi, le caractère qu'il a montré a permis à l'équipe de rester unie et de permettre d'aller chercher cette qualification avec les dents, finalement. Et au final, plus que la forme, c'est surtout le résultat qui est retenu ici par les supporters en attendant de voir un vrai test face à une équipe européenne. Face aux Pays-Bas, même ici les analystes, j'écoutais Baptiste Luta hier notamment, disaient voilà, il faut surtout attendre de voir ce que va avoir cette équipe contre une grosse écurie. Donc tout le monde attend de voir maintenant le test face aux Pays-Bas, évidemment. Mais avant, c'est la fête, évidemment.
Bon, on t'entend pas très bien, Georges. Hein. On va te laisser faire la fête chez les locaux del football, là, parce que c'est un peu compliqué de t'entendre correctement, malheureusement. Oui, donc finalement, on n'est pas tellement d'accord sur ce qu'on a vu de l'Argentine. Moi, je suis plutôt sur la ligne de Georges et Stéphane. C'est-à-dire qu'ils ont été bien meilleurs contre la Pologne, en effet, Daniel. On va dire qu'ils sont capables de beaucoup mieux. Là, ils ont tranquillement géré leur match face à une équipe qui était plus faible, évidemment.
Effectivement, je maintiens, je suis pas d'accord. Et entre très bonne et moyen, il y a bonne. Et moi, je vais prendre cette option-là, puisque tu sais, la question que tu as posée à Georges, c'est très bonne et moyenne. Moi, je pense qu'on a vu une bonne équipe d'Argentine qui a fait l'essentiel du jeu. Les Australiens, quand ils jouent de cette façon, ils jouent toujours de cette façon. Soit tu les fais péter très vite, ou peut-être que c'est la France qui est super forte de leur avoir collé la raclée qu'ils leur ont mis au premier match. Mais quand on a vu les autres matchs que les Australiens ont fait, ça correspondait déjà plus à ce qu'on a vu ce soir, c'est-à-dire ce bloc, ces lignes super serrées. L'Argentine a mené quand même 2-0 dans un match qui était absolument sans histoire et dans lequel il y a eu un début d'histoire à partir du moment où le mec a mis une frappe qui devait aller en tribune et qui est allé au fond des filets. Sinon, il y avait zéro histoire dans ce match et l'Argentine n'avait pas besoin non plus d'en faire plus. On est dans un huitième de Coupe du Monde. Les huitièmes de Coupe du Monde où une équipe...
Ils auraient pu s'épargner de trembler à la fin en en mettant un troisième à un moment. Quoi.
Mais en mettant un troisième, Lautaro Martinez, s'il traverse cette Coupe du Monde, l'histoire, elle est que Lautaro Martinez est titulaire au début de la Coupe du Monde, qu'il est dans ce match où sa Coupe du Monde à lui personnellement bascule du côté obscur quand ce but où il n'est pas vraiment hors jeu, si jamais il est validé, peut-être que c'est tout le parcours de l'Argentine jusque là qu'on regarde d'un autre œil et surtout le sien, parce qu'après il perd sa place de titulaire et on voit bien qu'il est atteint mentalement. Il a trois occasions nettes dans le peu de minutes qu'il a passé dans ce match. Alors évidemment ça figure pas dans les frappes cadrées, mais quand tu te retrouves à 10 mètres en face du gardien seul et que tu la mets au-dessus, ok, c'est pas une frappe cadrée, mais pardonne-moi, c'est une situation extrêmement dangereuse qu'un type en perte de confiance ne met pas au fond. Mais l'occasion, ils l'ont créée et ils en ont créé plusieurs ce soir, des comme ça. Donc, moyenne, je sais pas ce que ça veut dire. Très bonne, c'est pas très bonne, parce que très bonne, bon, ils auraient gagné 3-4-0. Mais en huitième de finale de Coupe du Monde, face à une équipe qui refuse le jeu et qui, en plus, est vraiment offre un style que les Argentins détestent. C'est-à-dire que de la baston, que du contact, que de la baston, que du contact. Tu sais combien de kilomètres ils ont couru, les Australiens, ce soir? 120 kilomètres. Normalement, une équipe qui court 120 kilomètres, elle cause beaucoup, beaucoup de problèmes et souvent même elle gagne les matchs. Ça veut vraiment dire.
Ils ont aussi couru 120 kilomètres, parce que vous avez dû voir ça, évidemment. Ils sont quand même ultra organisé. Bah, je pense que c'est l'équipe la mieux organisée de la Coupe du Monde.
Mais en fait,
en termes de respect des positions, écartement des lignes et tout, c'est au millimètre.
Exactement. Et comme comme techniquement, franchement, ils sont pas habiles, ils ont les pieds carrés. Même en courant 120 km, ils se créent même pas une occasion. C'est dire, ils sont très loin en matière de football. Mais en matière d'organisation défensive, le foot permet ça. On le sait, on connaît ce sport. On sait qu'il y a des équipes en bois qui sont capables de créer des gros problèmes à des équipes qui essayent de jouer. Parfois, ces équipes-là,
l'Argentine a peu essayé de jouer, d'ailleurs. L'Argentine, elle avait tout le temps le ballon.
Elle était tout le temps dans le camp adverse.
Évidemment,
Trouver la profondeur.
Il y a pas photo entre l'Argentine et l'Australie. Il y a pas photo sur le match. Et l'essentiel pour l'Argentine, c'est de se qualifier pour la ligne. Il n'y a pas de débat ce soir. Mais c'est une équipe que j'avais trouvée très entreprenante face à une même genre d'équipe. La Pologne, c'est l'Australie en mieux. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est aussi bien organisée peut-être, qui est capable en plus.
Et un peu plus de technique,
offensivement d'apporter quand même. Donc ils avaient fait un très très bon match. Par rapport à leur match contre la Pologne, moi je les trouve un peu en retrait. Après, on s'en fout. L'important pour eux, c'est qu'ils soient en quart de finale. Ils ont 5 jours maintenant pour préparer le match contre les Pays-Bas. Et ils ont surtout une nouvelle merveilleuse, c'est qu'ils ont un Messi au top, quoi. Ils ont un Messi qui a marqué son premier but dans une phase éliminatoire de Coupe du Monde, ce qui paraît dingue, le jour de son 1000e match. Et c'est un Messi qui va guider, qui va inspirer les autres, qui montre le chemin. Et ça n'a pas de prix pour l'Argentine.
Benjamin, Richard, vous en dites, vous êtes d'accord avec ce que disent Daniel et Stéphane?
L'Argentine est évidemment très difficile à jouer. Messi focalise tout le monde. Tout le monde est focalisé sur Messi ou Ronaldo. Faut qu'il y en ait des deux qui gagnent leur Coupe du Monde. Moi, je les vois pas aller au bout.
Ah ouais?
Non.
Parce qu'il y a plus fort, en fait. Après, oui. On sait pas dans les confrontations.
Je les vois pas aller au bout. C'est un peu Messi le reste du monde, Ronaldo le reste du monde pour le Portugal que j'ai vu jouer aussi. Non, c'est aucune des deux équipes m'a impressionné pour le moment.
Alors après c'est ton avis, hein, mais le Portugal, c'est surtout pas Ronaldo et le reste du monde. Le Portugal, c'est une vraie équipe de foot avec un Ronaldo qui est presque parfois qui est pas un problème quand même, parce qu'il est pas si mal finalement. Moi il m'étonne, il m'étonne plutôt d'ailleurs, plutôt en bien depuis le début de la Coupe du Monde. Mais c'est une belle équipe, le Portugal. C'est une vraie équipe en tous les cas.
J'ai du mal à comprendre, parce que des Coupes du Monde, on en a vu dans notre vie tous autant qu'on est. Et mais alors c'est vrai que comme c'est tous les 4 ans, je pense qu'on oublie comment ça se déroule une Coupe du Monde.
L'équipe du début n'est pas forcément l'équipe qui est de la fin.
La phrase cette équipe ne m'impressionne pas, ou cette équipe a pas fait ci, a pas fait ça, en Coupe du Monde, ça veut rien dire du tout, quoi. Les Français en 2018, ils impressionnent personne en poule. Ils font un match un peu carnaval contre l'Argentine. Ils impressionnent personne contre l'Uruguay. Contre la Belgique, c'est à l'arrache. Ils finissent champion du monde. Vous voulez qui encore? L'Allemagne 2014.
L'Italie, le dernier euro, d'ailleurs, tout simplement. Qui est une équipe qui a jamais donner l'impression d'être très supérieur à ses adversaires.
Alors remontons encore plus loin, Stéphane, puisque tu parles de l'Italie 2006, qui joue en huitième contre l'Australie, où ils se qualifient à l'arrache 1-0 sur un péno discutable de Totti. Après, ils ont un bon tirage pour prendre l'Ukraine en quart 3-0. Le seul gros match, énorme match, c'est cette demi-finale contre l'Allemagne. Ouais. Et après la finale, on se souvient tous comment ça s'est passé. L'Espagne impressionnait tout le monde dans le jeu en 2010. Et ça, c'est vrai, c'est peut-être le dernier souvenir qu'on a d'une équipe qui était au-dessus tout le temps de ses adversaires, mais qui ne gagnait les matchs que 1-0. Parce qu'elle trouvait tout le temps des défenses très regroupées. L'Allemagne, en 2014, ils font un huitième contre l'Algérie. Les Algériens sont héroïques sur ce match-là. Bon, c'est en demi-finale quand ils pètent le Brésil en deux que vraiment, on voit qu'ils ont l'équipe pour aller au bout. Et ils affrontent l'Argentine qui avait pas impressionné grand monde avant d'arriver en finale. Les Coupes du Monde, c'est pas j'impressionne du monde. C'est, il y a les matchs qui arrivent. Là, pour le coup, la vieille phrase, les matchs les uns après les autres, elle prend tout son sens. Parce que t'as même pas réellement besoin de mettre un jeu en place, en fait. La France nous l'a montré il y a 4 ans. Autant quand tu vois du championnat avec une équipe de club.
Match par match, c'est une problématique. Et c'est ça.
Alors, il y a quand même une petite différence là.
Les bonnes clés.
C'est pas le club.
Il y a quand même une petite différence là. Il y a les
38 journées, ces matchs de Coupe d'Europe. Pardon, Gilbert.
Il y a quand même une petite différence, c'est qu'il y a quand même deux équipes qui, quand elles mettent leur équipe type, ont effectivement assez impressionné sur le premier tour. C'est le Brésil et la France. Donc forcément, tu vas forcément comparer tout le reste à ce que tu as vu du Brésil et de la France.
Moi, je veux bien. Moi, je veux bien que la France ait impressionné, mais alors quand tu vois qu'elle m'a impressionné très fort la première mi-temps contre le Danemark. Et d'ailleurs, je me souviens que ce soir-là, plein de gens n'étaient pas d'accord avec moi en disant que j'exagérais. Et moi, la première mi-temps contre le Danemark, je l'ai trouvé formidable. Mais après coup, quand tu vois que le Danemark termine dernier de la poule et a même été battu par l'Australie, je me dis bah merde alors, peut-être que les Danois ils avaient la tête à l'envers. Donc il faut peut-être relativiser. Donc en fait, il faut éviter d'à chaque fois. C'est comme dit Stéphane, c'est chaque match est une problématique en Coupe du Monde. Et
Brésil, hein, j'ai commenté les 3 matchs du Brésil. Bon, évidemment, que ce soit une bonne équipe, il n'y a pas de débat. Il y a des joueurs formidables de toutes les ligues. Ouais. Mais il n'y a pas une impression. De toute façon,
Brésil-Serbie, quand même.
Cette Coupe du Monde, Gilbert, elle
a été. Il dégageait un truc sur le Brésil-Serbie, Stéphane, qui était quand même super positif. Tu avais une impression de maîtrise, technique, un rouleau compresseur.
C'est un match.
Bien sûr, c'est un match.
Ce que je veux te dire, Gilbert, c'est que c'est la première Coupe du Monde où aucune équipe ne fait le grand chelem au premier tour.
Ça c'est déjà un point très intéressant.
Et ça c'est arrivé en 94, je crois.
Pardon.
En 94.
Depuis 94, c'est arrivé.
C'est très rare. 94, c'est arrivé aussi. C'était pas une très bonne Coupe du Monde d'ailleurs. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire?
Je sais que tu disais qu'il n'y avait pas d'équipe qui avait gagné les 3 points.
Voilà, donc
probablement ça voulait dire.
Oui, moi j'ai pas vu. Je regardais tout à l'heure cet après-midi les 16 qualifiés. Il n'y en a pas un dont je me dis celui-là a tout, elle nous a montré tout ce qu'il faut pour aller au bout. Donc il y a des points positifs sur beaucoup d'équipes et des points un peu en retrait sur beaucoup aussi, quoi. Voilà, c'est mon avis.
Voilà, tu peux mettre la France effectivement sur cette première mi-temps contre le Danemark, mais d'abord le huitième a pas été joué. Qu'est-ce qui se passe si un joueur se blesse? On a bien vu qu'au niveau des remplaçants, on était léger. Qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 cartons? Tu sais, il reste encore.
Il gagne, tu n'es jamais que 2-1, Daniel, avec une frayeur quand ils reviennent à 1-1 et un but. Je vais pas vous dire venu d'ailleurs,
Donc il faut se méfier des impressions, de dire cette équipe m'impressionne pas. On parlera des Pays-Bas tout à l'heure. Écoute, la première mi-temps, c'était vraiment, pour ce qui est de la tradition hollandaise du jeu, c'était à la poubelle. Et la deuxième mi-temps, je les ai trouvés très bons.
Le meilleur des Pays-Bas, c'est Van Gaal ce soir dans ses déclarations. Enfin, on en reparlera tout à l'heure.
Exactement. Dans un instant, on revient avec Georges qui, cette fois, sera sorti de son bar pour reparler un peu des performances individuelles. Et ensuite, les Pays-Bas, effectivement, sont au programme jusqu'à 23h. Et ensuite, ce sera l'équipe de France qui joue demain face à la Pologne sur RMC à 16h. À tout de suite sur RMC dans l'After.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois. Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là. Et bien sûr, en direct ici de Doha, nos invités Benjamin et Richard ce soir, supporters des Bleus. Et Georges Quirino qui est de retour à Buenos Aires. Georges, est-ce que tu nous entends? Ah bon, il arrive. Bon, on va rétablir.
Il est resté dans le bar.
Juste, alors, rentrons un peu dans les individus là. Donc Messi, on a dit qu'effectivement on a un bon Messi depuis le début de la Coupe du Monde, mais il faut un peu se pencher sur ceux qui l'entourent. Là, bon, Di Maria devrait revenir, on a entendu Florent Germain, ça a l'air plutôt en bonne voie.
Ah, moi je sais pas si c'est une super bonne chose, qu'il va falloir qu'il me montre autre chose, Di Maria, pour que je sois convaincu, parce que alors si c'est pas Pou Gomez, bon, mais il y a peut-être d'autres solutions, je sais pas, mais c'est pas lui dont j'attends beaucoup de choses en ce moment, parce que je vois un Alvarez qui pète le feu, Enzo Fernandez au milieu, Acuña sur le côté, je vois pas mal de bons joueurs en ce moment en Argentine.
Tu dis que l'Argentine peut se passer de Di Maria.
Bah, sur ce que j'ai vu quand il était sur le terrain, ou alors il faut qu'on retrouve un mec avec des jambes qu'on n'a pas vu chez lui depuis longtemps, parce qu'évidemment on sait qu'il a beaucoup de talent, mais bon, là
Georges est de retour. Georges,
un peu plus au calme.
Ah, effectivement, t'es sorti chez les locaux d'El Football.
Ouais. Je suis dans un endroit un petit peu plus. Je vous écoutais parler de Di Maria. En fait, le problème, c'est qu'il a pas de remplaçant naturel dans l'équipe de Scaloni, parce que avant c'était Nico Gonzalez, l'ailier de la Fiorentina, qui est parti blessé. Et donc du coup, en fait, il bricole un peu Scaloni. Et avant ce match, par exemple, il a hésité à jouer avec Julen Alvarez sur un côté et Lautaro en neuf. Ou à faire jouer Joaquín Correa de l'Atlético de Madrid, et au final il a opté pour Papu Gómez, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une option évidente. On sait qu'il ne voit pas Dybala par exemple dans ce poste-là, a priori Scaloni, donc
voilà, parce qu'il faut trop courir sur le côté. Dybala il ne court pas des lattes, mais et jamais ils ont pensé à un 4-4-2 où on mettrait Alvarez et Messi devant et De Paul, Enzo Fernandez dans les deux milieux de terrain, et sur les côtés McAllister avec un autre mec sur le côté.
Et mais toute la problématique, c'est de trouver cet autre mec, en fait, justement, Daniel. Parce que ça ressemble un peu finalement à ce que veut proposer Scaloni, mais le problème, c'est que ce garçon à droite, il l'a pas. Il a des jeunes, il a Thiago Almada par exemple, mais qui est très jeune, qui joue à Atlanta aux États-Unis, qui est l'une des pépites de Vélez Sarsfield, mais très jeune, un peu trop pas prêt pour ce niveau-là. Donc il lui manque très clairement une option. Donc c'est pour
Correa,
ça que je pense que c'est Di Maria.
Le Correa, tu dis qu'il est trop central pour jouer dans le 4-4-2 comme ça.
Mais Correa, en plus, Daniel, il est arrivé dans cette équipe, il n'était même pas prévu qu'il soit dans les 26, il est venu uniquement parce qu'il y a eu des blessés. Ouais. Donc je pense que si Di Maria est à même 90% ou 95%, il jouera le match face aux Pays-Bas. Ils ont un peu plus de récupération cette fois-ci, donc je pense qu'il y a plus de chances qu'il y soit, mais au final, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour Scaloni à ce poste-là, sauf s'il décide de mettre Julen Alvarez sur un côté, ce qu'il fait par exemple à City parfois, et ce qu'il a fait à River Plate avant. Donc il sait le faire.
Oui, dans ce cas-là, c'est Alvarez qui ferait l'homme que je cherchais, et Lautaro retrouverait une place à côté de Messi devant, dans un 4-4-2.
Si Lautaro retrouve sa tête.
Avec McAllister d'un côté, Alvarez d'un côté. Franchement, ça pourrait avoir de l'allure.
Si Lautaro Martinez retrouve sa tête, parce qu'on l'a vu aujourd'hui. Ouais, il est au fond du sac. Je pense qu'il s'est jamais remis de son vrai faux hors-jeu du premier match face à l'Arabie Saoudite. Il a été sorti et après là, on l'a vu rater les trucs immanquables qui habituellement, il avait justement cet instinct de tueur avec Scaloni. Donc il faut voir. Peut-être que Scaloni aussi va avoir en tête de lui redonner de la confiance. Il en a parlé avant ce match-là qu'il avait confiance en Lautaro, mais bon. Il va falloir voir. Je pense que la réussite de l'Argentine viendra de là aussi, hein, si Lautaro Martinez arrive à aller mieux.
Parle-nous un peu de McAllister, là, parce qu'il y a quand même des joueurs qu'on ne suit pas évidemment partout, tout le temps. Et McAllister, donc il joue au Brésil, hein, c'est ça?
Non, pas du tout.
J'ai confondu avec un autre, celui-là, alors.
Et il joue dans une équipe qui joue pas mal.
Moi, personnellement, j'ai pas vu Brighton. Stéphane, toi, tu suis peut-être plus Brighton
Oui. C'est une équipe qui pratique un très bon football et c'est un joueur très polyvalent, surtout parce que tu parlais il pourrait jouer à droite aussi, McAllister. C'est un joueur qui peut à peu près. Enfin, Brighton, en tout cas, je l'ai vu jouer à plusieurs postes différents.
Ouais, mais il a même un peu joué à gauche là, sur ce match-là. Effectivement, c'est un joueur polyvalent. D'ailleurs, à Brighton, Stéphane, il joue plutôt devant la défense avec Moisés Caicedo, l'équatorien, dans un rôle presque
Brighton a une exception. Je peux juste parce qu'on parle de foot, j'en parle. C'est du temps en tous les cas où Potter l'entraînait encore en début de saison. Maintenant, c'est des Herbies qui est là-bas. Mais Potter avait réussi à constituer une équipe. Ça va vous plaire, ça, où il y avait deux joueurs défensifs sur le 11 et un gardien. Tous les autres joueurs. Leandro Trossard, qu'on a vu avec la Belgique, jouait latéral. Tous les joueurs, y compris au poste défensif, tu as McAllister, joue milieu défensif, étaient des joueurs quand même à vocation offensive. Et ça marchait.
Et au final, pour quel résultat?
Non, ils ont fait une très bonne saison l'année dernière. J'ai plus qu'à se féliciter
pour son jeu.
Qui était dixième, autour de la dixième place en Angleterre. Qui a tapé des gros.
Hein. Ouais, c'était une équipe dont tout le monde vantait le jeu.
Et d'ailleurs, pour l'instant, on ne trouve pas la touch à Chelsea, mais c'était très étonnant de voir comment il procédait.
Mais McAllister, c'est un joueur qui s'est formé à Argentinos Juniors, le club où a débuté Maradona, qui ensuite a joué à Boca Juniors, donc il a réussi même à s'imposer à Boca. On sait que les joueurs qui s'imposent à Boca, déjà ça montre quelque chose au minimum au niveau du caractère. Et après il est parti à Brighton, on sait que De Zerbi l'aime beaucoup, justement parce qu'il est très polyvalent, comme tu disais Stéphane. Et au final c'est la clé de Scaloni pour remplacer Lo Celso, parce qu'il n'avait pas ce joueur pour remplacer Lo Celso. On sait qu'il hésite avec Papu Gomez, au début il l'avait mis sur le premier match d'ailleurs, et il a ce joueur là, un peu technique aussi, avec qui on sent que Messi s'entend bien. Donc McAllister, c'est l'une des bonnes trouvailles. Il n'était pas la dernière Copa América, il faisait partie du gros groupe de Scaloni, donc ça fait un petit moment qu'il est dans le groupe déjà, mais on ne l'imaginait pas titulaire, ça c'est une certitude pour ce mondial. C'est une des bonnes
surprises. Papu Gomez, il est décevant quand même, non Georges? Je trouve que je me souviens de lui à l'Atalanta où
il est un peu fini,
où il nous faisait rêver presque, il y avait un côté magique dans ce joueur. Et là, on a rien vu ce soir encore.
Ouais, mais Stéphane, en fait, le truc, c'est que comme tu dis, je pense qu'on l'aimait tous à l'Atalanta, Papu Gomez.
Ouais. Et aujourd'hui, il est à Séville. C'est un jeu hyper huilé, l'Atalanta à l'époque.
Exactement.
Il était fort.
Ouais, et aujourd'hui à Séville, il a même pas énormément de temps de jeu. Hein. Il a une dizaine de matchs. Je sais qu'il a un peu plus joué avec Sampaoli depuis qu'il est arrivé à Séville. Et on a l'impression que c'est plus à chaque fois un joueur de complément qui rend des services à gauche, à droite, parfois même en numéro 10, en soutien.
Ce soir,
on sait jamais quel est vraiment son poste, Papu Gomez.
De loin.
Ouais, il est dans le coup. Il est dans le coup. Et même, franchement, Daniel, sur le premier match, vous entendez, il y a des gamines en train de crier derrière moi avec le maillot de l'Argentine, parce que je suis toujours dans la rue. Sur le premier match, c'est même l'une des rares satisfactions, moi j'avais trouvé sur la première mi-temps face à l'Arabie Saoudite, l'un des joueurs qui avait levé la tête. Donc après, je pense pas que Scaloni l'imagine dans le 11 titulaire si Di Maria revient. À mon avis, bon, pas beaucoup.
Donc là, tu dis si Di Maria revient, il est titulaire quoi qu'il arrive. Parce qu'on se pose la question.
Ouais, ouais, je pense.
Et moi, je sais pas pourquoi j'ai mis McAllister au Brésil, je cherche encore. J'ai confondu avec un autre.
Il donne beaucoup de largeur à l'équipe, moi je trouve, Di Maria. C'est vrai qu'il est plus fulgurant, on le voit pas partir dans ses dribbles enflammés. Mais par contre, il élargit bien le bloc adverse.
Il rate souvent les passes.
Oui, c'est moins bon. C'est
le rat, c'est sûr. Alors il peut refaire un match, j'espère, mais bon.
Dis-moi, Georges, avant de te laisser, il y a un petit sujet qu'on n'a pas abordé dans l'after. Scaloni, lors de la phase de poule, a fait une sortie en disant ouais, mais de toute façon, il y a trop d'émotions là. Moi, j'ai eu mon propre frangin qui va pleurer dehors après les matchs et tout. Faut se calmer. On a vu les Uruguayens hier. On en a parlé un peu dans l'after hier. Les Brésiliens, ils chialent avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs. Hier, c'était les Uruguayens. Je sais, qu'est-ce qu'on en dit en Argentine de tout ça là? Je sais pas, c'est une spécificité chez l'américaine maintenant, cette surémotion. Et est-ce que ça peut être un problème ou pas?
Même les Allemands pleurent, alors c'est te dire.
Non, la surémotion, c'est quand même très argentin. Alors après, c'est vrai que Scaloni, justement, depuis qu'il est à ce poste-là, il a toujours eu le discours de dire il faut qu'on arrive un peu à sortir de cette idiosyncrasie argentine, de toujours s'enflammer, toujours justement pleurer pendant les matchs, se laisser aller. Et on a vu que même lui s'est laissé aller finalement contre le Mexique. Donc il est un peu allé contre son discours. Lui veut justement que tout le pays descende un peu. Donc il n'était pas trop content, par exemple, quand il a vu Aymar à côté de lui, presque au bord de l'infarctus, après le but de Messi contre le Mexique. Mais oui, ça fait partie des débats dans la presse, pas forcément chez les analystes, parce que c'est des anciens joueurs qui aussi vivaient tout ça à bloc, mais oui, sur la gestion des émotions de cette équipe dans les moments difficiles. Mais moi, je trouve que jusqu'à maintenant, justement, dans les moments difficiles, ils ont su réagir,
à part le
premier match, mais il y a eu de la réaction, et c'est peut-être ça. Peut-être que dans le jeu, elle n'est pas incroyable, cette équipe. Moi, je vous l'avais dit avant la Coupe du Monde, hein, dans le jeu, elle n'est pas dingue, cette équipe. Mais c'est un collectif, c'est une équipe ensemble, avec un caractère, et qui, pour ça, sera dur à sortir, je pense.
Bah, tu sais, en 2014, elle est allée en finale sans faire lever les foules. Hein.
Ouais, bien sûr. Ils passent notamment en demi-finale contre les Pays-Bas au tir au but. Ouais. Et d'ailleurs, ils auront ça en tête, les Argentins, parce que pour eux, Argentine-Pays-Bas, c'est un classico.
Pour moi, clairement, c'est le vrai test maintenant pour eux. Donc, il faudra, comme disait Platini, la Coupe du Monde, c'est trois matchs. Bon, ben voilà, pour eux, il va commencer. Le premier des trois, il est là. Et s'ils battent les Pays-Bas, pour moi, ils sont vraiment gros candidats. Je pense que là, vraiment sérieusement, on pourra dire qu'ils peuvent aller au bout.
Argentine, Pays-Bas, c'est l'histoire de la Coupe du Monde.
Ça va être un vrai test, ça va être un vrai gros test pour eux, vraiment.
98, 98.
Mais à chaque fois, en plus, c'est des drames.
78.
La finale 78, quand même.
78,
la finale
bien sûr.
78. 98, c'est le carton rouge d'Ortega à la dernière minute. Et juste derrière le but de Bergkamp. Donc, Ortega, c'était Ginola ici. C'était Ginola ici pour les commentateurs argentins. Ils se sont retrouvés au Brésil en demi-finale.
Ortega, oui, pardon. Faut se rappeler du but hollandais, hein, qui est un des plus beaux de la Coupe du Monde 98. Je pense que tu peux mettre tous les Ginola que tu veux.
Oui, mais bien sûr, mais en fait, Ortega simule un penalty. L'arbitre vient lui dire qu'il y a carton jaune, il s'énerve, il met un coup de tête à Van der Sar, et derrière, il est expulsé. Et derrière, il y a le but de Bergkamp. Donc, il y a eu tout ce moment-là en Argentine où justement, on en a voulu à Ortega de ne pas avoir tenu ses nerfs, alors qu'en 98, ils avaient une génération incroyable, hein, les Argentins. Donc, mais bon, oui, derrière, il y a un but de dingue, mais il y a une grosse histoire de rivalité ici et de respect aussi avec les Néerlandais.
Bon, ça veut dire qu'ils mènent 2-1 aux confrontations en Coupe du Monde. Alors, il n'y en a pas eu d'autres dans celle qu'on a.
Si, en poule, il y a eu un vieux match moisi en poule.
74, ils perdent contre l'équipe de Cruyff.
Non, mais là, récemment, il y a une Coupe du Monde, ils sont en poule ensemble.
C'était en Allemagne, peut-être, en 2006.
Oui, voilà, avec un 0-0, un truc comme ça, un match un peu moisi. Ouais.
Ouais. Georges, merci.
Merci à vous.
Bonne soirée chez les locaux d'El Football.
Ouais. Bon, ils sont tous locaux pour le football ici, donc je suis bien entouré.
Salut Georges, à plus.
Ciao les gars.
Un point rugby, Stade Français, La Rochelle, Arnaud.
15 minutes encore à jouer dans cette partie, la deuxième journée de Top 14, et c'est le Stade Français qui continue de mener 6 points d'avance, 20-14, 3 essais inscrits pour un seul essai Rochelet.
Dans quelques instants, les Pays-Bas, Johan Crochet va nous rejoindre, et ensuite l'équipe de France. L'after est là jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs, bien sûr. À tout de suite en direct du Qatar.
RMC After Foot, Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Il est 22h42 à Paris, minuit 42 ici à Doha. Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, les Pays-Bas sont au programme. On a également deux invités ce soir de supporters des Bleus, Benjamin et Richard, qui sont avec nous. Et puis vous le savez, tous les soirs on vous offre des maillots de foot grâce à Foot Corner. Ce soir, maillot de l'Angleterre. Alors si vous voulez gagner ce maillot, vous envoyez foot par SMS au 7-32-16 en prévision, pourquoi pas, du quart final des Bleus. Les Pays-Bas, on en parle avec Johan Crochet, qui est spécialiste du football néerlandais, tout comme du football italien. c'est ce qui fait sa force.
Quel rapport.
Oui, mais Richard nous dit quel est le rapport. Effectivement, il n'y a pas de rapport. Mais c'est comme ça. C'est
Johan Crochet. Entre comme ça. Italie et Pays-Bas, il n'y a vraiment aucun rapport.
Ah non.
Si, Bergkamp
à l'Inter. Il y avait Mino Raiola, quand même.
C'est vrai. C'est vrai, t'as raison, t'as réussi à trouver un trait d'union. Alors là,
je suis sûr que Johan en a d'autres, tu vas voir. Johan, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Bah, les Hollandais ont joué à Milan, mais bon, ça compte pas, les joueurs qui ont joué, il faudrait. Ouais.
Ah, c'est pourtant un vrai trait d'union. Et à l'Inter, il y a eu pas mal de Néerlandais également. Donc
Oui, non, mais les joueurs, c'est facile de trouver des joueurs de tous les pays qui jouent à la championnat. Raiola, c'est, je trouve, un peu plus fin comme lien.
Alors, mais il y a un truc d'ailleurs, c'est moi vrai. Qui m'a. Parce que j'étais au match cet après-midi entre les Pays-Bas et les États-Unis. Et il y avait énormément. Parce que je me suis retrouvé dans au milieu de supporters hollandais, dans les transports et tout. T'as beaucoup de supporters hollandais qui ont des maillots du Barça. Alors, il y a quand même un lien aussi fort avec le Barça.
Oui, bien sûr.
Et les gars, ils le cultivent, quoi. Parce que pour aller au stade, voir les Pays-Bas avec un maillot du Barça, c'est que t'as envie d'afficher un truc quand même, tu vois. C'est, voilà. Ou alors t'aimes pas le orange.
Non, mais le lien, il est incroyable entre le Barça et les Pays-Bas, par les joueurs qui ont joué, par Johan Cruyff, évidemment. La figure emblématique du football aux Pays-Bas, c'est Johan Cruyff.
Mais plus de maillots du Barça que de maillots de l'Ajax, tu vois, par exemple, Johan.
Ouais, alors ça,
je vais regarder attentivement.
Pas forcément l'expliquer. Peut-être que ceux de l'Ajax avaient plus un maillot des Pays-Bas, en l'occurrence. Peut-être que les supporters de clubs néerlandais avaient plutôt un maillot de la sélection. Mm. Mais après, c'était peut-être des maillots floqués Frenkie de Jong.
Ah, bon alors, allons-y. Depuis le début de la Coupe du Monde, t'es assez circonspect, assez critique sur les performances néerlandaises. Qu'est-ce que tu nous dis ce soir après la qualif?
Si on regarde la première mi-temps, je vais être sur la même lignée depuis le début. C'est-à-dire que la première mi-temps, elle est pas bonne parce que parce que c'est toujours aussi lent. Et d'ailleurs, Dumfries, à la fin du match, a expliqué que Van Gaal les avait pas mal bousculés à la mi-temps parce que il en avait assez d'avoir des joueurs qui faisaient rien en phase de possession et qui faisaient pas plus en phase de non-possession, c'est-à-dire qu'ils faisaient aucun pressing, qu'ils n'allaient pas du tout chercher les joueurs adverses et exercer une quelconque oppression. Donc Van Gaal n'était pas du tout satisfait de la première mi-temps alors qu'il menait 2-0. La deuxième mi-temps est meilleure. Elle est meilleure surtout sur un point, c'est sur la création d'occasions nettes de but, où là, ils ont eu plus de possibilités de marquer, où on a eu des vraies combinaisons. Ce qui est dingue avec cette équipe, c'est que quand elle accélère, quand elle joue une touche de balle, elle fait des décalages mais monstrueux, parce qu'elle a des joueurs évidemment très techniques, parce qu'elle a des joueurs de côté qui sont capables de prendre l'espace et de partir très vite en transition, parce que Cody Gakpo au milieu de terrain, quand il se lie entre les lignes avec les joueurs du milieu de terrain ou avec les ailiers, bah, il est capable de faire beaucoup de différence. Parce que Memphis est un neuf très atypique et que lui aussi est capable de jouer avec les autres dans les petits espaces en une touche de balle. Et finalement, là, il y a une frustration aux Pays-Bas, c'est qu'ils le font pas assez. Et que le peu de fois ils le font, à chaque fois, ça crée du danger. Mais le problème, c'est qu'ils le font trop peu souvent et que souvent, ils sont sur un petit rythme de sénateur, un monorythme sans changement justement de rythme, sans intensité. Et où là, ils sont capables de faire beaucoup de passes pour pas grand-chose. Et en plus, quand t'as un déchet technique, parce que quand vous regardez... la première mi-temps de Davy Klaassen, de Martin de Roon, c'est pas bon, ça perd trop de ballons, des ballons simples, etc. C'est pour ça que
Mais la première mi-temps était très étrange. T'as l'impression qu'ils avaient peur, en fait. Tu vois,
mais c'est bizarre, c'est l'impression qu'il
n'y avait pas le ballon.
Mais c'est l'impression qu'il donne, moi, je sais pas si c'est un, de la peur, deux, de...
Je pense que c'était la stratégie, Johan. Non, ils attendaient clairement que les Américains, ils voulaient les piéger et ils l'ont parfaitement fait.
Oui, mais là, techniquement, t'es au-dessus des Américains. C'est une stratégie de gagne petit qui leur ressemble pas, tu vois.
Ben alors justement,
ils avaient
sans doute observé le match États-Unis-Angleterre où rentrer dans la bagarre avec les Américains, c'est pas simple, hein, parce qu'ils ont du répondant dans le combat plus que dans la qualité technique.
Je te suivrais, Stéphane, si on n'avait pas vu la même chose contre le Qatar, contre le Sénégal et contre l'Équateur. Le problème, c'est qu'on a la même configuration à chaque fois, donc c'est même pas lié forcément à l'adversaire.
Ouais, c'est une stratégie.
Et comme disait Gilbert, en fait, je crois que t'as dit un truc comme on n'est pas habitué ou un truc comme ça, t'as dit.
Oui, j'ai dit que c'était une stratégie de gagne petit qui peut faire autre chose.
Parce que le foot, c'est aussi des images, des souvenirs et parfois des légendes qui prennent le pas aussi sur la réalité. La réalité des Pays-Bas, c'est effectivement la tradition du jeu, l'école de l'Ajax, Cruyff et les Pays-Bas de quand on était petit. Alors, quand ils démarrent un huitième de finale et que contre les États-Unis et qu'ils laissent la possession aux États-Unis et qu'ils attendent dans leur camp, là, très honnêtement, c'est le monde à l'envers, c'est une sorte de tout qui s'écroule. Et puis, si on se pose deux minutes, on se rend compte quand même que la Coupe du Monde 2018, ils y sont pas, et que celle de 2014 où ils vont en demi,
avec Van Gaal déjà.
En dehors de ce premier match qui avait été très 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 bizarre, la raclée qu'il passe aux Espagnols, franchement, c'était pas les Pays-Bas de la légende. Johan, c'était pas du tout les Pays-Bas de la légende. Donc, est-ce que aujourd'hui,
déjà qu'il faut qu'on remette en cause nos idées reçues.
Les choses changent un petit peu.
C'est comme si on changeait la recette du Nutella.
Pas du tout. Et c'est lié aux sélectionneurs aussi, les gars. Le point commun entre 2014 et 2022, c'est Louis van Gaal
de l'Ajax qui gagne la Ligue des Champions en pratiquant du jeu. Van Gaal, il est de la tradition hollandaise du jeu. Il est
pas. Ça a beaucoup évolué, ça, Daniel. Il a été très fortement en opposition avec Cruyff et ses idées.
Ouais, c'est ça.
Louis van Gaal. Il faut savoir que c'était la guerre ouverte entre Louis van Gaal et Cruyff au début des années 2000-2010, que dès qu'il parlait de jeu, Van Gaal prenait même une posture pour aller à l'encontre de Johan Cruyff, juste pour une question de posture, et qu'en termes de jeu, il est bien moins dans la grande lignée des Rinus Michels et Johan Cruyff que d'autres entraîneurs.
Oui, mais alors attends, pour être précis, tu le sais comme moi, les Pays-Bas, c'est une tradition de très grands coachs pour un si petit pays. Il y a un gap entre la tradition, comme tu dis, Rinus Michels, Cruyff, où effectivement il y a une sorte d'extrémisme radical dans le jeu, et un Gus Hiddink, où on va dire l'école un peu Feyenoord ou PSV. Entre les deux, t'avais plutôt un peu Van Gaal. Van Gaal se rapproche quand même plus, même si on sait. Et puis les oppositions de caractère, d'engueulade et tout. Aux Pays-Bas, c'est un pays où il y a tellement de conflits d'idées de ce genre-là que les mecs pouvaient peut-être s'embrouiller. C'est vrai, Dieu sait qu'ils se sont embrouillés. Hein. C'est comme Van Basten qui parlait plus à Cruyff, pareil. Néanmoins, sur le jeu, ils sont pas. il y a pas un gap monstrueux. Van Gaal, il est plus quand même de l'école Ajax que Verheiding et ces mecs là. Sauf qu'effectivement leur embrouille a fait qu'on a cru qu'il était très très loin. Mais Van Gaal, c'est quand même un mec qui à chaque fois essaie de mettre en place des équipes.
Plus les années passent, plus il s'en éloigne, Daniel.
Ouais, bah peut-être.
Plus les années passent, plus il s'en éloigne, ouais, notamment parce que pour lui,
il s'en éloigne, mais il est quand même plus d'une tradition. On n'est pas, tu vois, je sais pas, je vais pas prendre des entraîneurs français pour comparer.
Non, bien sûr. Van Gaal, mais je vois ce que tu veux dire, Daniel.
Tu vois, il est quand même. C'est quand même un entraîneur qui a toujours fait jouer ses équipes, même quand il laisse la traversée du désert et qu'il reprend Alkmaar là. À l'époque,
ouais, c'est quand même pas mal.
C'est quand même un entraîneur, même quand il parle et tout. Bon, c'est vrai que là, moi, je suis choqué. La première période, je suis choqué.
Je pense aussi qu'il.
C'est les Américains, et les Américains font le jeu et il attend. Bon, ok, très bien, très
je
bien.
Je pense que sa pensée, évolue aussi par rapport au tournoi qui est la Coupe du Monde. Et lui, il a toujours répété, il y a 7 matchs à passer.
Ouais, mais
il
n'a
jamais parlé
dit, moi,
de type de jeu, de match. Lui, il dit match 1, match 2, match 3, match 4, match 5, etc., etc. Lui, le but, c'est d'aller au bout. Il le dit depuis le départ. Il dit la fédération m'a donné comme objectif quart de finale, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec sa fédération. Lui, il veut être champion du monde.
Ça commence
c'est
bien.
Le seul.
Ils sont engueulés même avec son employeur. Ça commence.
Sont clairs. Il a dit.
C'est là où il est excellent. Moi,
il a dit on va gagner la Coupe du Monde. Il a dit, moi, je dis depuis le début qu'on peut gagner la Coupe du Monde. Ça veut pas dire qu'on va la gagner.
Mais qui, et lui, il veut la gagner.
Moi, j'entends, et sur la deuxième période, eh ben, je les ai trouvés bons. Et je comprends, en fait, ce qu'il veut mettre en place. Et je comprends que dans ce schéma-là, alors effectivement, peut-être qu'il pourrait faire mieux, mais Memphis est un joueur absolument clé. Parce que vraiment, ce qu'il fait, Memphis, moi, je trouve qu'il est fort. Vraiment, je trouve qu'il est fort. Il a la capacité à garder le ballon, à créer des décalages avec un dribble et à lancer des mecs. Là, pour le coup, Dumfries qui nous avait déçu depuis le début du tournoi, il 2 passes décisives et il est totalement isolé là sur les rangs de marquage pour mettre le 3e but
et un sauvetage sur la ligne
et en contre-attaque. Effectivement, ils sont pas mal du tout dans le jeu de transition. Ils sont assez percutants et leur deuxième mi-temps, je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Vraiment.
Stéphane, Memphis, il est vraiment central parce que quand tu n'as pas un buteur de grand talent. Alors attention, Memphis, il a des statistiques incroyables. Hein. Il met un but tous les deux matchs en moyenne avec la sélection, donc c'est énorme.
Avec les Pays-Bas depuis.
Mais
des
voilà,
années,
c'est ça.
Années,
c'est exactement. Vrai. Mais quand tu n'as pas un joueur d'une classe supérieure, on va dire, comme l'était les Van Nistelrooy, les Van Persie, sans éviter de remonter beaucoup plus loin. En fait, Memphis, c'est le seul attaquant de vrai niveau international que tu as aux Pays-Bas. Parce que derrière, quand tu vois qu'il fait rentrer Weghorst ou Luc de Jong ou Vincent Janssen.
Qui en fait est une révélation là sur cette Coupe du Monde, mais qui n'est pas un mec qui a éclaté au même niveau.
Mais Cody Rakpo, attention,
il est fort, depuis trois
saisons aux Pays-Bas, c'est très fort.
C'est pas encore Van Nistelrooy ou Van Basten.
De toute façon, c'est un ailier à la base.
Avec Memphis, c'est bon.
Mais c'est un ailier à la base. Attention, c'est pas un attaquant central. C'est un ailier depuis toujours. Il joue ailier gauche au PSV. Et là, il l'a adapté dans une sorte de. Alors, selon les configurations, quand il y a Klaassen, il joue devant avec Memphis. Et je me demande si contre l'Argentine, il va pas revenir à sa formule initiale.
T'as été assez dur avec Daley Blind, là, aujourd'hui. Ah. Et grand match de Daley Blind, quand même.
Très bonne deuxième mi-temps. Mais la première, il est à l'ouest total. Mais comme les autres en même temps. Mais deuxième mi-temps, il est bien mieux. Mais
Klaassen, Johan, c'est un titulaire indiscutable des Pays-Bas. Moi, j'ai été bluffé quand j'ai vu ça tout à l'heure. Là.
Non.
Il n'y a pas de meilleur joueur que lui à ce poste-là aux Pays-Bas.
Ah si, il y a plein de meilleurs joueurs que lui. Mais le problème, c'est qu'il a choisi de le mettre lui. Il y a des joueurs qui sont restés à quai et qui auraient très bien pu aussi avoir ce rôle. Mais oui, c'est un peu vieillot comme expression, mais bon. Mais Klaassen, c'est un joueur de projection et c'est pour ça que ça m'étonne pas en fait. C'est que c'est pas un joueur pour faire circuler le ballon. En fait, si vous voulez, c'est un peu un. Vous vous souvenez du rôle de Donny van de Beek à l'Ajax en 2017-2018 c'est Klaassen, c'était un van de Beek moins fort. Et voilà, c'est un joueur qui se projette très bien, qui prend les espaces, qui lui, par contre, va beaucoup travailler,
Everton,
beaucoup courir.
C'est le même ou c'est un autre?
Comment?
C'est le Klaassen qui a joué à Everton ou c'est un
autre? Oui, bien sûr. Non, c'est celui-là.
C'est ça que je comprends pas. D'accord, ok, merci.
C'est celui-là.
Tu le reconnais pas, Stéphane?
Non,
c'est pour ça que tu dis ça.
Non, je le reconnais pas. Donc, non, j'étais même. Non, parce que là, il joue pas numéro 10, mais il joue très haut, quoi.
Quasi
numéro 10,
À l'Ajax, il jouait à ce poste-là, en fait. Et là, maintenant qu'il est revenu à l'Ajax, quand il joue, c'est, c'est entre 10 et 8 relayeurs très offensifs. Donc après, c'est pas un titulaire indiscutable, clairement pas, hein, même pas un titulaire à l'Ajax. C'est des joueurs plus talentueux, mais c'est un peu symptomatique de, je trouve, comme choix de Van Gaal, de voilà, mettre des joueurs qui
après c'est la plupart sont des bons joueurs de ballon, hein, quand même, hein. C'est il faut aussi techniquement
bah le joueur moyen paye du néerlandais est bon de toute façon.
Ouais, voilà, c'est ça, il y a aussi une base technique. À part, bon, il y a le comment il s'appelle qui est rentré là, qui est un peu pato là, Berguis là, qui est souvent un peu
c'est un bon joueur, mais
c'est un bon joueur, mais il est un peu plus pato, on va dire, que les autres, mais ça reste quand même des bons joueurs de ballon, hein, les néerlandais, hein. Donc
Mais Berguis, en plus, il a commencé comme ailier lui aussi. Il est devenu milieu de terrain à l'Ajax. Et ouais, le premier match, souvenez-vous, hein, il le met dans un milieu à deux avec Frenkie de Jong. C'était une catastrophe.
Si Van Gaal dit les Pays-Bas peuvent gagner la Coupe du Monde, Deschamps doit dire aussi les Pays-Bas, la France peut gagner la Coupe du Monde.
Ah, bah oui, bien sûr.
C'est vraiment dire. Rien à envier à ce.
Ouais, mais Van Gaal, il n'a rien à faire de la superstition, de faut pas le dire, de faut le cacher, etc. Van Gaal, il parle.
Alors, on va parler un peu des cartes finales à venir.
On n'a pas la même tradition, on dit les choses.
Juste un mot des Américains, vous avez un truc à dire sur les Américains? Ils ont été au taquet, là, sans doute.
Moi, je les ai trouvés pas mal du tout. Hein. Vraiment,
ils ont calé physiquement, moi je pense, parce qu'ils étaient pas le milieu qui avait été exceptionnel des États-Unis depuis le début du tournoi. Ouais. Là, ils
notamment
ont été dans
Tyler Adams.
Les trois, Musa, McKenney et Adams se sont fait manger quand même. Et alors que ça n'avait pas été le cas des matchs. Je pense que le fait d'enchaîner 4 matchs en 2 semaines, ça a été trop pour eux, quoi. Il n'y a pas de talent. C'est une équipe. C'est une équipe qui prépare. Alors, ils préparent la Coupe du Monde et ils vont être bien parce que c'est une équipe très jeune, hein, très très jeune. Les pays, je crois que c'est l'équipe la plus jeune une des plus jeunes du tournoi.
24.
Mais par contre, il va falloir trouver du talent parce que c'est à un moment donné, c'est comme
ça. Non, mais ils vont être bien en 2026. Hein, franchement, quand tu vois le milieu de terrain, McKinney, il aura 28 ans.
S'ils trouvent du talent, Johan, parce que ces joueurs-là, ils vont être là, mais il va falloir quand même que ça soit un peu plus talentueux devant, quoi.
Ça, ils vont.
Ouais, mais il y a des bonnes choses.
Huitième dans un groupe où ils sont bien, 8e, parce que ça va être à la maison. Comme ils ont l'habitude d'être en 8e, probablement ils le seront encore. Je trouve que c'est une équipe. Moi, je m'attendais même pas à ce qu'elle soit si bonne que ça. Même dans le jeu, elle essaye, elle prend une initiative. Elle n'est pas juste une équipe un peu solide dans une comparaison hasardeuse, style Australie, quoi, tu vois.
Ah non, rien à voir. Non,
il y a plus de talent. Et pour suivre un peu juste sur la MLS, il se passe quand même des choses très intéressantes en MLS. Quand vous avez un club comme Philadelphie qui travaille beaucoup avec les jeunes, qu'on voyait Aaronson, que vous avez vu rentrer plusieurs fois lors de cette Coupe du Monde, qui joue à Leeds, le frère Aaronson va signer à Francfort cet été, qui est plus jeune que lui. Il y a pas mal de bonnes choses. La seule difficulté sur les joueurs offensifs, c'est qu'en MLS, on fait venir beaucoup de joueurs brésiliens, de joueurs argentins, de joueurs colombiens sur les postes offensifs, et forcément, ça s'en ressent un peu, même si Jesus Ferreira, c'est l'attaquant de Dallas, c'est vraiment un bon attaquant, mais aujourd'hui, il a été transparent.
Il a été miteux.
Ouais, exactement. Il a pas été bon du tout. Mais sincèrement, dans moins de 4 ans maintenant, ça peut être une belle révélation de Coupe du Monde, les États-Unis.
Yoann, reste avec nous encore 2-3 minutes pour qu'on se projette un peu vers le quart de finale. Et ensuite, il y aura l'équipe de France. Que tu nous dises ce que tu penses du duel entre Argentine et Pays-Bas. Et puis ensuite, l'équipe de France au programme. Un point rugby, Stade français La Rochelle, Arnaud.
Et c'est terminé avec cette excellente opération pour le Stade français qui s'impose 27-14 et qui est allé chercher le bonus offensif à une minute de la fin avec cet essai en bout de ligne de Lester Etienne. Résultat, le Stade français qui était 7e au coup d'envoi, et bien remonte à la 2e place et passe juste devant le Stade Rochelet qui repart sans rien de Paris.
Merci Arnaud, bonne soirée. L'équipe de France, c'est donc le quart de finale Argentine-Pays-Bas au programme dans la 2e heure de l'after, et ensuite il y aura la libre antenne jusqu'à 1h du matin comme tous les soirs en direct du Qatar. À tout de suite.
RMC After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
L'after est là jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs évidemment, en direct de notre studio du Qatar. On a une sorte de duplex organisé avec Daniel Riolo et Stéphane Guy à Paris, moi au Qatar avec nos invités, Richard est là, Benjamin est là. Il y en a même Michel qui nous rejoint, qui est originaire de Pologne, mais français. Hein.
C'est ça, tout à fait.
Très bien, bah, tu as donné ton avis sur la Pologne tout à l'heure. Nous confirmer peut-être l'avis de Daniel qu'il va développer dans quelques minutes ou pas. Mais d'abord, on finit avec Johan sur le quart final. Toi, la confrontation Argentine-Pays-Bas, Johan, comment est-ce que tu la vois? Est-ce que tu as l'impression que l'Argentine est au-dessus? Enfin, je sais pas, ton ressenti, et on en dira tous un mot là.
Moi, ce que je vois des deux équipes, c'est quand même des équipes qui sont pas sur des rythmes très élevés depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc, je sais pas ce que ça peut donner en termes d'intensité sur un quart de finale. Si j'en juge par ce que je vois, j'imagine une rencontre assez fermée, parce que j'ai pas l'impression que Van Raal va changer.
Ouais. Tu vois pas un match à but, quoi.
Non, c'est différent. Match à but et match ouvert ou fermé, c'est différent parce que t'as des joueurs qui, sur une action, peuvent faire la différence. Évidemment, côté argentin, on pense à Messi. Côté néerlandais, on peut penser à Memphis Depay ou à un Cody Gakpo. Quand vous regardez les buts de Gakpo dans cette Coupe du Monde, il y en a deux qui sont pas construits. C'est juste, il sent bien le ballon piqué de Young et il devance Mendy. Et l'autre, c'est une frappe du gauche qui sort un peu de nulle part au ras du poteau. Donc, c'est pas forcément des actions très construites. Donc, ça peut être un peu différent. Tu peux avoir des buts avec des exploits individuels, en fait. Je pense que la clé va être dans la récupération du ballon et dans la gestion des transitions de l'adversaire. Parce que finalement, ces deux équipes se ressemblent, je trouve. À chaque fois que je les ai vues jouer, l'Argentine, je la trouve vraiment en danger sur les transitions. Et les Pays-Bas, c'est la même chose. Donc comment ils vont gérer ça? Comment, avec des milieux de terrain très différents, avec des profils très différents au milieu de terrain, quand tu vois un De Paul et quand tu vois un De Jong, c'est vraiment pas la même chose. Et voilà, je trouve que c'est très ouvert finalement, dans le sens où c'est toujours un peu bateau les trucs de favoris et tout, mais je vois pas une équipe qui se dégage plus que l'autre par rapport à son parcours jusqu'à présent de ce début de Coupe du Monde. Je vois pas une équipe qui impressionne, j'en vois pas une qui est bien meilleure défensivement, une qui est bien meilleure offensivement, une qui gère mieux ses temps faibles que l'autre, une qui gère mieux ses temps forts que l'autre. Il y a pas d'individualité qui est ressortie de manière extraordinaire, hormis Gakpo d'un côté et Messi sans doute de l'autre. Mais en dehors de ça, j'ai deux gardiens qui sont capables de faire des très bonnes choses aussi des deux côtés. Donc, je vois une équipe, en tout cas sur le papier, je vois ça comme une rencontre très équilibrée et où il est assez difficile de prédire ce qui va se passer et qui va sortir gagnant de cette rencontre.
Ça y est, j'ai confondu avec Arrascaeta, l'Uruguayen qui joue au Brésil. Voilà. Depuis tout à l'heure, je cherche, je me dis, c'est pas possible. C'était lui. Bon, sur le quart de finale, vous êtes d'accord avec ce que dit Johan, Daniel?
Assez, franchement, je dégage pas un favori dans ce match-là. Là, on rentre réellement dans le dur des grosses nations du foot qui s'affrontent. Oui, effectivement, Memphis, le petit jeune d'un côté, Messi et Alvarez qui est en feu. Oui, c'est ça. C'est plutôt au niveau des individualités, des actions. Les équipes nationales, tu peux pas, dans une Coupe du Monde, tu peux pas dire, parce que t'as pas l'habitude de la voir contre des gros. Le problème, c'est que maintenant, dans les qualifs, c'est plus des références. Il n'y a pas de référence sur le jeu des équipes nationales. C'est un peu comme si tu les vois tous les deux ans, tous les quatre ans en Coupe du Monde, mais tu les as pas vues avant dans des parcours où tu sais comment elles jouent, où tu sais comment elles font face à telle ou telle adversité. Donc, t'as très peu de références. Souvent, les joueurs qui ont démarré les qualifs, c'est pas ceux que tu retrouves titulaires à l'arrivée, ou c'est pas le même état de forme des uns des autres. Il peut y avoir un ou deux blessés. C'est de plus en plus compliqué de mettre des vrais jeux collectifs en place. Donc, ça se joue, à la façon, même l'intensité, c'est pas des matchs où tu mets une énorme intensité comme les matchs de Ligue des Champions qu'on a l'habitude de voir. Donc, ça peut être un match équilibré qui se joue sur une ou deux actions, celle qui va effectivement le mieux profiter des phases de transition. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je le vois. Je pense que les Argentins vont avoir le ballon puisque les Pays-Bas ont décidé de plus l'avoir maintenant.
Ben, s'ils le font contre les États-Unis, il n'y a pas de raison que ça change, en effet.
Effectivement. Donc, ils vont laisser le ballon à des Argentins qui vont surtout tout faire pour éviter de le perdre, pour pas se faire prendre dans les transitions que redoute pour les Argentins Johan. Et voilà. Et ça va se jouer là. On pourrait, pourquoi pas, avoir, comme la dernière fois, une prolongation ou un truc comme ça. Ça peut être très serré, et un peu fermé. Effectivement.
Stéphane, ton avis? Ah, on t'entend pas.
Je trouve que le facteur Messi est le facteur X de ces matchs à élimination directe et que c'est très prometteur pour l'Argentine. Ce qu'il montre là, c'est ça doit donner une confiance énorme aux autres.
Et les Argentins font tout pour qu'on pense exactement ça, savoir que ça doit ressembler, puisqu'ils sont que dans la mystique, que ça doit ressembler à la Maradona des années 80, quoi. C'est-à-dire, on est là, on va tous se défoncer et on attend ton geste. Ouais. Et on attend que ce soit toi qui, d'ailleurs.
Et le geste vient.
Il y a encore une déclat, je sais plus quel joueur a dit ça à la fin du match, les Argentins.
Molina.
Hein?
Molina.
Oui, genre, on a toujours l'as dans notre manche. C'est ça. Bon, ben voilà, c'est ça.
Bon, il y a avec la perspective d'un Australie-Brésil en demi-finale, bien sûr. Pourquoi pas. Oui, Johan.
Il y a peut-être une donnée à... Argentine-Brésil, ouais. Il y a peut-être une donnée à prendre en compte, c'est que pour la première fois, il va y avoir 5 jours pleins de repos pour les deux équipes qui ont beaucoup enchaîné là, parce que c'est la première Coupe du Monde où il y a aussi peu de jours de repos entre deux matchs de phase de groupe.
Oui, parce que c'est vendredi le match.
Ouais, vendredi, non, mercredi soir le quart.
Non, non, vendredi.
Non, vendredi, non, vendredi, là on est, vendredi, on est samedi, c'est là, vendredi samedi. De la semaine, là, vendredi, c'est vendredi qui vient.
Le match. Là on est samedi, oui, le quart de finale, oui, exactement, parce que mercredi, pardon, il n'y a pas de match, et mardi soir se termine les huitièmes. J'ai trouvé ça très étonnant qu'il y ait autant d'espace pour eux, quoi, là. C'est très, un peu bizarre. Non
bah, d'ailleurs, Van Gaal a donné journée off à ses joueurs demain, donc il a dit, je pense qu'il y en a certains qui commencent à en avoir marre de me voir, donc demain je ne veux pas les voir, ils font ce qu'ils veulent.
C'est un gros atout pour ces équipes-là, pour la suite du tournoi. C'est que là, ils ont en plein cœur du tournoi d'avoir 5 jours. Là, donc effectivement, la petite journée qui va bien, tout le monde peut se détendre, c'est très très important.
Bah, tu sais, le Portugal, par exemple.
Le Brésil qui va jouer mardi, je crois, le Brésil, et qui va rejouer donc le dimanche. Hein, c'est ça,
le Portugal
samedi,
ou l'Espagne. Le Portugal ou l'Espagne ont la même chose là entre leur dernier match de poule et leur huitième, en fait. Hein.
Oui, en fait, les trous ont été dispatchés pour que tout le monde en profite à un moment.
Mais je pense que c'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux d'en disposer entre le huitième et le quart. Oui. Bah, ça dépend qui tu joues, évidemment, en huitième. Mais là, pour les Argentins, pour les Néerlandais, c'était parfait.
Merci, Johan.
Merci à vous, messieurs.
Salut, bonne soirée, à très vite. Merci. Allez, on passe à l'équipe de France, les gars. Demain, un match contre la Pologne à 16h. Bon, alors la compo, on annonce le 11 de départ du Danemark. C'est ce qu'on peut appeler l'équipe type, quoi, de la Coupe du Monde, en quelque sorte, les gars.
Une équipe type, on est d'accord, qu'on n'aurait pas donné à 100% il y a encore 3 semaines avant le début de la Coupe du Monde.
Ah non.
Ben voilà, donc c'est dire comme à chaque fois, on cherche à trouver des références à des équipes, alors qu'on est en train de parler d'équipe type.
Oh, il nous manquait qui, Daniel? J'avoue que j'étais parti sur Fofana plutôt que Dembélé, mais sinon l'équipe elle était. Et puis si Koundé Pavard.
Mine de rien, ce que t'as dit sur Dembélé, Fofana, ça change tout le visage de l'équipe.
Ben ouais.
On espérait un peu nous les trois attaquants, mais ça change quand même absolument tout.
Et la défense centrale, les gars. Il y avait aussi une incertitude. On savait pas si Varane allait être prêt. Bon.
Donc c'est dire que si chercher des références quand on est dans un tournoi, c'est souvent vain. On perd du temps.
Oui, non, et puis il y a eu Lucas Hernandez. Finalement, quand on réfléchit bien, il y a eu quand même 4 sur 11, donc ça fait quand même
avec un tiers de l'équipe. Lucas Hernandez, on se retrouve avec une équipe ultra offensive parce que t'as Théo Hernandez sur le côté qui va arpenter les allers-retours. Donc, c'est bien la preuve que les références pour les équipes dans les grandes compètes comme ça, en fait, il n'y en a pas.
Mais autant, si tu veux.
Ne nous cassons pas la tête.
Autant, en 2018, il y a eu changement de 11 parce qu'il y a eu un vrai loupé, un match raté qui a entraîné une nouvelle réflexion. Autant là, c'est pas le cas. Là, tu t'adaptes à des circonstances de blessés, de retour. Varane, il revient de blessure, mais bon, c'était évident. Lucas Hernandez, il n'y a pas le choix. Il n'y a que le cas Pavard qui était pas très identifiable, quoi.
Et Deschamps adore avoir des choix contraints. Ouais, parce que ça évite de se casser la tête sur les stratégies. Et l'un des plus grands exploits de sa carrière, il l'a fait avec des choix contraints.
C'est-à-dire
le match retour Monaco-Real.
Ah oui.
Où il est contraint de faire un choix totalement différent.
Si on va au bout de ta réflexion, il a fait exprès de ne pas prendre de latéraux, alors en se disant comme ça, de toute façon,
C'est pas ça que je suis en train de dire, il n'a pas fait exprès. Oui. À l'époque, dans ce match-là, si je me souviens bien, il doit avoir deux expulsés, Bernardi et Zikos, qui étaient deux joueurs clés pour lui. Et ça l'oblige à faire une équipe qui est complètement différente et bien plus offensive avec les joueurs qu'il a. Et il fait l'exploit.
Allez, on enchaîne avec justement l'avis de Daniel sur le match de demain. Jingle Riolo, s'il vous plaît.
Ça m'écorche la bouche de dire Messi, phrase, Messi, virgule, il est nul. Mais il est nul. Alors, c'est Daniel, à chier.
Pour moi, c'était pas avec l'Argentine, c'était avec le PSG. Hein,
évidemment.
C'était pas cette année non plus, hein, on a compris.
Donc, oui, tu voulais donner un avis sur le match de demain et son issue.
Effectivement. Mais alors, je voudrais quand même démarrer avec une petite introduction. C'est que je me souviens, l'année dernière, avant le huitième de finale, sur BFM, autour d'un plateau. Avant France-Suisse, je disais exactement la même chose, à savoir qu'il n'y avait rien qui pouvait permettre d'envisager une défaite des Bleus. Ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Et je vais exactement dire la même chose. aujourd'hui.
Ah mince.
C'est qu'il n'y a rien. mais parce qu'on fait pas du pronostic. On analyse des forces en présence. On essaye d'envisager ce qui peut se passer dans un match. Après, que le football soit parfois magique, bah, c'est justement aussi pour ça que ce sport est à ce point populaire. C'est que ce qu'il y a sur la feuille, parfois, termine à la corbeille à papier. Mais a priori, et exactement comme dans ce France-Suisse, tout fait penser à la balance du côté des Bleus. Exactement comme quand tu mènes 3-1 dans un match à 8 minutes de la fin, c'était, je ne sais plus exactement. Ça n'arrive jamais, normalement, que tu te fasses reprendre et que tu ailles perdre au péno, même si les Bleus avaient abordé ce match complètement à l'envers. Donc je veux bien qu'ils l'abordent à l'envers demain et qu'il y ait un scénario aussi fou encore. Pourquoi pas, le foot propose ça. Mais a priori, on ne peut rien redouter de ces Polonais parce que les individualités, elles sont toutes moins fortes. Tactiquement, on a une équipe qui va refuser le jeu et qui en plus l'assume, parce que cet entraîneur-là le dit, il aime faire ça. Qu'on a a priori les joueurs pour percer justement ce genre de défense-là. Si on y était allé en mode on met que deux attaquants, j'aurais pu envisager le match fermé où on se tape la tête dans un mur et ça se termine mal. Mais si on y va avec Mbappé, Dembélé, bon, il y a quand même moyen de transpercer cette défense, même si elle est rodée, même si elle adore faire ça, même si elle adore couler le béton, tu vois. Bon, donc effectivement, parce que tactiquement on est mieux, parce que techniquement on est mieux, parce que nos individualités sont au-dessus, ça doit être un huitième de finale sans histoire, qui doit permettre aux Bleus de se qualifier pour le quart de finale. Il ne reste quoi à la Pologne ? Qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste la magie du foot, l'incertitude, le 0-0 jusqu'au bout, le but. On a bien vu tout à l'heure des Australiens qui n'ont absolument rien fait dans le match, mettre un but sans cadrer la frappe. Bon, ok. Si à ce moment-là, les Bleus ne mènent que 1-0 et qu'ils se prennent un but comme ça et qu'ils réussissent à se faire traîner à la prolongue,
c'est la maladresse qui est le seul danger des Bleus demain, c'est la maladresse.
Mais comme encore en plus maintenant, il y a ce qu'on appelle le temps effectif, ça rallonge les matchs et ça permet moins aux équipes de truquer, de faire traîner un match et finalement de mettre des temps morts dans un match. Parce que ça aidait les équipes inférieures. Mais les équipes inférieures peuvent plus tellement faire ça parce que maintenant elles se voient avec des temps additionnels à rallonge, qui peuvent permettre à des équipes supérieures d'aller faire la différence.
Stéphane, est-ce que tu es d'accord avec Daniel ?
Ah oui, complètement. Non, moi c'est pareil. Je cherche des raisons d'avoir peur, mais il y en a pas. Voilà. Et je vais te faire un petit partager quelques secrets de fabrication. Quand on commente des matchs de foot, comme j'ai fait pendant tant d'années, on fait la fiche du match la veille. Et donc on met toutes les données possibles et inimaginables sur une feuille en carton. Voilà, on essaie de passer les deux équipes au crible. Et en général, on a quand même un avis assez précis de ce qui peut se passer, quoi, le lendemain. Mmh. Et si je jouais sur les matchs que j'ai commentés, j'aurais souvent gagné. Pas toujours, loin de là. L'exemple le plus extraordinaire, évidemment, c'est ce PSG-Barça où l'affiche du match la veille, si on s'était parlé la veille, je vous aurais dit c'est impossible que demain le PSG ça se retourne. Donc ça, c'est l'histoire du foot. Ça arrive malgré tout. Mais là, effectivement, avoir un France-Pologne, quand on passe au crible, les deux équipes, le parcours, les historiques, les forces du moment, il y a zéro alerte rouge pour les Bleus, zéro. Et c'est peut-être ça le danger, peut-être, mais j'y crois pas. Je pense que demain, moi j'aurais peut-être pas dit tout à fait, j'aurais dit à peu près ça face à la Suisse, mais la Suisse avait quand même des vrais arguments et avait montré des choses.
Tu fais bien de rajouter
là,
ça.
La Pologne, la Suisse, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, quoi, vraiment. Alors bon, peut-être que demain on va avoir une révélation, je pense à un duel comme ça, parce que c'est Batikash contre Kylian Mbappé, je pense que ça peut être une boucherie.
C'était plus oblige,
je prends des risques, voilà, ça te fera peut-être un jingle dans une semaine, hein, mais je vois pas,
pour que ça fasse jingle, il faut quoi, que la Pologne se qualifie et qu'en plus Cash marque un but,
ouais, que Cash mette Mbappé sous le boisseau, ouais, ça j'y crois pas.
Alors comme on a un franco-polonais autour de la table, t'es d'accord, est-ce que t'entends là Michel?
Bah oui, on a regardé tous les mêmes matchs, hein, donc malheureusement la Pologne, on a vu un très grand gardien. Ils ont forcément un super attaquant qui est jamais servi, qui est vraiment tout seul
devant. Entre les deux, c'est le problème.
Entre les deux, il y a rien, quoi.
Donc, ils disent que demain ils veulent le mettre à deux. Ça peut-être que ça peut être un changement.
À deux quoi? Deux attaquants,
qu'il ait enfin quelqu'un autour de lui.
On n'a pas vu Zielinski, alors que ça doit être une
histoire. S'ils font le match que fait l'Australie ce soir contre l'Argentine, même si je pense que la France sera beaucoup plus aspirée que l'Argentine, avec deux lignes de quatre, avec une telle, ils sont capables d'avoir cette discipline-là, etc. Et que les deux devant, effectivement,
sur les deux demi-ballons qu'ils vont avoir,
ils seront meilleurs que les deux Australiens qu'on a vu là. Mais voilà, mais bon, voilà, tout
ça, c'est. Il est en train de faire un scénar de trouille. Il est en train de monter un scénar de trouille.
Mais j'y crois pas une seconde.
Zielinski et Lewandowski, ça peut faire la diff, tu dis.
C'est pour le coup deux très bons joueurs.
Sur le papier, c'est joli. Mais c'est vrai que de ce qu'on a vu, il n'y a pas grand chose pour l'instant.
Mati Cash qui n'est pas de la famille de Pat Cash. Hein.
Non. Ni non, Tabata non plus.
Ni Tabata
Cash. Le problème qu'on a en ce moment,
c'est
que.
C'est pas les mêmes références.
Bravo, Daniel. Chacun ses références culturelles.
Richard et Benjamin, vous en dites quoi, vous? Vous êtes d'accord?
Alors évidemment, on sera au stade demain. Moi, je pense que ça va jouer sur l'implication. Si Didier fait son job, s'ils arrivent impliqués, il n'y a pas photo. Ça va être une boucherie.
Ils arrivent en claquette. Sur la 8e de Coupe du Monde.
J'étais à France-Tunisie. Ce match était une honte absolue. C'était incroyable. Aucune implication. Là, ça va se jouer sur l'implication. Si on est présent.
T'inquiète, Dizazi sera pas latéral demain.
Voilà. Ici, y a pas Dizazi, pas Fofana et pas les deux Marseillais. On s'en sort. le reste, c'est l'implication.
Le mec du PSG, regarde-le, là. Il y a l'extérieur du PSG.
Non, mais franchement, Veretout, qu'est-ce qu'il fait en équipe de France? Je veux dire, on va pas se mentir.
Oui, bon, Verratti, pas français, excuse-moi. Tu
peux pas... voilà. Donc, l'implication, on veut de l'implication, on veut des attaques, on veut que ça flamboie, et on veut montrer au monde qu'on est là. Voilà.
Benjamin?
Moi, cette équipe de France, elle me plaît carrément. Tout bêtement, parce qu'aujourd'hui, on a Giroud qui répond présent, on a Mbappé qui a des jambes de feu, on a aujourd'hui une équipe qui est beaucoup plus impliquée. Je pense que le fait qu'il y ait autant de blessés, ça leur a enlevé une certaine pression. Et par rapport
dis pas ça à Benzema, hein.
Ouais.
Ou aux gens qui l'entourent.
Mais aujourd'hui, ils ont su s'adapter. Je trouve en effet qu'il y a plus de combativité. Clairement, et c'est ce qui fait la différence, hein. Si la Suisse revient, c'est parce que peut-être qu'on avait manqué de concentration. Là, ils sont clairement impliqués. En plus, il y a l'historique qui va faire qu'ils vont éviter de réitérer les mêmes erreurs. Non, moi, franchement, je suis.
Bref, ça commencera en quart de finale contre l'Angleterre.
C'est ça.
Ah, là, voilà. Par contre, ça va pas être pareil, ouais.
On va déjà passer la Pologne.
Les Anglais, c'est pas fait. Hein. Je préfère être dans la position de jouer la Pologne que le Sénégal.
Hein. Alors c'est demain soir d'ailleurs. Hein. On en a pas encore parlé. Ouais. Toi qui es un fin connaisseur du foot anglais, tu doutes là ce soir. Tu vas aussi nous faire le scénario de la peur.
Non, moi je suis pour l'équipe de France. Hein. N'ayons aucun. j'ai pas de double équipe. Mais je pense que c'est très bien ce que fait l'Angleterre. Vraiment, je trouve que c'est très sérieux, très carré. Mais je pense que jouer le Sénégal. Sénégal, c'est l'équipe qui peut te mettre le feu, où tu maîtriseras pas. Tu maîtriseras forcément pas tout dans un match contre le Sénégal. Donc ça va être c'est un gros match. C'est des 4 huitièmes là qu'on a vécu. C'est le plus incertain. Entre les deux qu'on a vu aujourd'hui et les deux qu'on verra demain, c'est là où il y a le plus d'incertitude.
Oui, dit comme ça, oui, vu les affiches qu'on a vues jusque-là, oui, on va dire que le.
Il n'y a pas beaucoup de huitièmes très incertains quand même. Celui-là en
est un. Mais j'ai néanmoins du mal à imaginer, ils peuvent leur poser des problèmes, mais j'ai du mal à imaginer que l'Angleterre n'aille pas en quart contre la France, qu'on n'ait pas ce quart qu'on attend. Quoi.
On n'a jamais eu d'ailleurs, je crois, en Coupe du Monde, dans un match à élimination directe.
À élimination directe, en France-Angleterre, ça ne dit rien du tout.
Ouais, France-Angleterre 82.
Oui, mais c'est un match de poule.
C'est la dernière fois d'ailleurs qu'on les a joués en Coupe du Monde, donc peut-être la seule fois. Ouais.
Après, en poule, tu les joues aussi à l'Euro 92, mais c'est un match de poule, pareil. Non, je vois pas de traces de France.
2004, match de poule. C'était quasiment un huitième de finale, 2004.
Oui, c'est vrai.
Et en 2004, c'est aussi à poule, hein, le coup franc Zidane à la fin.
C'est le premier match. Effectivement, t'avais la Croatie et la Suisse.
Et la Suisse.
Dans le groupe.
J'étais à France, Angleterre. C'était à Lisbonne. 40 000 Anglais dans le stade. On était très peu de Français.
C'est pas le malin. J'y étais aussi.
C'est
un match de poule.
C'était incroyable.
Avec Thierry Henry qui va obtenir le péno, rappelez-vous, en toute fin de match. Bon, bref. voilà pour cet avis. Dans un instant, l'avis de Stéphane. Et puis l'actu des Bleus, je vous donnerai quelques infos dans quelques instants. Parce que oui, j'aimerais votre avis, vous n'étiez pas là hier soir, Daniel et Stéphane, sur le financement de l'arrivée des familles des joueurs. C'est intéressant.
Je pensais que tu allais parler du maillot du club formateur de Guendouzi.
Non, on l'a fait hier, ça. Il y a un petit rebondissement aujourd'hui, il faut aussi en parler. A tout de suite.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde. Gilbert Brivois.
Du matin ici au Qatar, 23h26 en France et ici à Doha avec moi, j'ai les supporters acharnés toujours là, 1h26 du matin. Michel, Benjamin et Richard, Daniel Riolo, Stéphane Guy également présent. On va continuer l'actu de l'équipe de France. Oui, l'histoire des maillots là, on en a parlé longuement hier de cette affaire. Je suis une initiative sympa, on va dire un hommage au foot amateur de faire poser les joueurs avec le maillot de leur premier club. En plus, ils avaient l'air tout à fait ravis de le faire. On a raconté hier que Guendouzi ne l'a pas fait, puisque donc son premier club était le PSG à 6 ans et que ça allait forcément le mettre un peu dans la panade, cette histoire vis-à-vis de l'OM et de ses supporters. Et aujourd'hui, qui c'est qui l'a bien chambré? C'est Kimpembe. Et qui, je ne sais pas si vous avez vu ça, a publié un message sur les réseaux sociaux en disant « Alors, il est où, Guendouzi ?» Ah oui, bon, forcément, il fallait s'y attendre.
Je trouve ça plutôt drôle. Est-ce que Guendouzi renie son passé? Le fait qu'il soit à l'OM, c'est ça la question. Mais après, moi, je peux comprendre parce que si on imagine la même chose... alors après, il faut imaginer qu'un gamin qui a été formé à Manchester United joue à Liverpool... C'est compliqué, ou qu'un gamin formé au Real joue au Barça.
Ouais, mais regarde, Harry Kane, il a été formé à Arsenal. Enfin, il est passé par Arsenal avant d'aller à Tottenham. Je sais pas si ça l'aurait empêché. Pourtant, la rivalité, elle est.
Bah, je sais pas. S'il aurait fait la photo.
Je sais pas.
En tout cas, un gamin
le
formé
mieux
au
dans
Barça,
affaire, c'est
il
la...
pose pas avec le maillot du Real 20 ans plus tard. Hein. Très compliqué.
Oui. La justification de la Fédé, la plus fantastique.
Tu poseras avec la photo du Qatar dans 20 ans, Daniel.
Avec la photo, mais j'ai aucune raison de poser avec la photo du Qatar.
Rendez-vous dans 20 ans.
J'ai aucune raison
t'auras
de poser.
T'auras oublié, tu as cautionné cette Coupe du Monde de la honte.
Ah oui, non, mais à 100%, j'ai aucun problème avec ça.
Dans 20 ans.
J'ai aucun problème avec ça.
Rendez-vous dans 20 ans. Prends la note, prends le rendez-vous, Gilbert.
Pourquoi dans 20 ans?
Je serai là.
Pourquoi dans 20 ans?
Ou dans 10 ans,
ou pas l'année prochaine, ou pas dans 2 ans,
le temps, l'histoire.
Tu sais, Stéphane, il faut jamais insulter l'avenir. Peut-être que dans 10 ans, le foot français appartiendra à l'Arabie Saoudite.
Ah, peut-être.
Ou à la Chine.
Il appartient déjà. Oui. Enfin bon, bref.
Mais le problème, c'est que tu ne dénonces pas les bonnes choses alors.
Pardon ?
Tu ne t'en prends pas aux bonnes personnes dans ton combat. Tu ne t'en prends pas aux bonnes personnes.
Pourquoi tu dis ça ?
Bah, si tu dis.
Je m'en prends à personne déjà. Moi, je constate.
Si, tu t'en prends.
Moi, je suis en empathie.
Tout le monde comme
collabo. Je suis en empathie. Si.
En fait, c'est vrai. Dans ces cas-là, il faudrait que tu dises.
Raison. Je pense que dans cette question-là, effectivement, il y a les résistants et les collabos.
Bah oui, mais donc, en fait, ce qu'il faudrait que tu dises, tout simplement, c'est que tous les expats sont tous des ordures. Il faudrait assumer, en fait. En fait, il faudrait aller au bout du raisonnement. Tous les expats sont des ordures. Tous les gens qui. Toutes les entreprises françaises qui ont bossé là-bas sont parties prenantes du problème, bien sûr. Il faut que tu poursuives en disant qu'il y a des pays dans le monde avec lesquels tu ne veux aucune relation diplomatique.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait boycotter, embargo. Pas du tout. Non, rien.
Mais
là, on parle de foot, Daniel. On parle pas
donc la Ligue 1.
On parle pas de relations internationales.
Donc, il ne faut plus jamais que tu parles de Ligue 1.
Pourquoi?
Bah parce que la Ligue 1, c'est l'argent du Qatar, la Ligue 1.
Bah le PSG.
Non, à partir du moment où l'argent qui roule, qui est rentré par CB...
C'est dans un cadre respecter deux, trois règles françaises.
Sois sérieux.
L'interview de Nasser El Khelaifi vous donne une idée, on en parlera peut-être tout à l'heure dans l'équipe, vous donne une idée de ce que sera, de qui dirige aujourd'hui dans ce pays, quoi. Ça, c'est assez éclatant, en effet.
Oui.
C'est vrai que cette interview est assez différente.
Ah oui, oui, oui. Et c'est pas fini, l'assurance. Non, c'est pas ça que je dis. Moi, mon combat, d'abord, moi, je suis en empathie absolue avec ces milliers de malheureux, on joue dans des cimetières, on célèbre des buts dans des cimetières, qu'on le veuille ou non, et ça c'est inacceptable. Et ça, et en plus, ces gens-là pour moi sont morts deux fois, c'est-à-dire qu'ils sont morts malheureusement, évidemment, dans le cadre de leur travail, et aujourd'hui on les enterre une deuxième fois parce que personne n'a d'empathie, tu vois, eux. Infantino, évidemment pas dans son discours pré-Coupe du Monde. L'émir du Qatar, évidemment pas quand il ouvre la Coupe du Monde. Al Khelaifi ce matin dans l'équipe, il n'y a pas un mot. Son mot, c'est de dire on n'est pas parfait. Non, mais c'est pas ça dont on parle. On parle de milliers de morts. C'est pas on n'est pas parfait, Nasser.
En fait,
on parle de milliers de morts.
En fait, tu ne comprends pas.
Donc c'est
tu ne comprends pas, tu ne comprends pas jamais parce que t'es dans la haine.
On est d'un côté. Non, c'est malheureux. C'est pas une question. C'est pas du tout un problème de haine. C'est un problème d'humain, de droit humain. C'est même pas un problème de savoir quel modèle prévaut sur tel autre modèle. Ça, j'en ai rien à foutre. C'est un problème. Qu'est-ce que l'humanité? Qu'est-ce que c'est qu'un homme sur Terre?
Qu'est-ce qu'était l'humanité en 2014 au Brésil?
T'as également fait des bidons
des cimetières.
Il y a jamais eu au Brésil.
C'est le nombre qui compte. Il est mort.
Est-ce que c'est le nombre qui compte? Pas forcément.
C'est le nombre ou pas qui compte?
Évidemment que non. C'est le système qui compte. C'est ce qui est systémique. Ça, c'est grave. Est-ce qu'on aurait dû organiser une Coupe du Monde dans l'Afrique du Sud de l'apartheid? Certainement pas.
Et au Brésil, c'était.
On aurait dû faire les Jeux Olympiques en Chine qui vont tuer les Ouïghours.
C'est vrai, t'as raison, Daniel. Daniel, Gilbert a complètement raison.
Donc on en revient tout le temps.
Et on nous dit, mais il faut y aller parce que ça leur permet de changer. Ça a changé la Chine. Ça a changé Poutine depuis 2018.
Donc tu n'y vas pas.
Je vais au bout, il n'y a pas de problème. Si un pays veut recevoir la Coupe du Monde, il doit répondre à un cahier des charges.
Mais
le cahier de qui?
De la FIFA.
Et la FIFA?
Mais la FIFA, c'est qui?
La FIFA, c'est qui, Stéphane?
C'est des fédérations.
Tu n'es rien. Quand est-ce que tu comprendras?
Je sais bien que je suis rien, Daniel.
Que le nord de l'Europe n'est rien.
Mais ça, c'est pas vrai. Mais ça, c'est faux.
Mais tu crois que les populations sont dupes de ça? C'est pas parce que les Argentins chantent dans les stades ou les Mexicains chantent dans les stades. Cautionne ce qui se passe
tu
là-bas.
Ne feras pas changer le monde comme ça.
Si on n'a pas l'idée de changer le monde, mais on serait la RDA serait encore à la Coupe du Monde. On serait encore en royauté.
Et comment tu le fais changer?
D'abord,
la force en les mettant sur une liste de pays infréquentables ou par le dialogue.
Le dialogue, évidemment que le dialogue est important.
Moi, j'aurais voulu te prendre par la main, que tu te balades avec moi là-bas.
Tu n'y es pas allé. Est-ce que tu es allé dans les zones sensibles? Tu m'avais dit, je vais aller dans les zones sensibles. Laisse-moi parler, Stéphane.
Te prendre par la main, qu'on aille voir tous les gens qu'on a rencontrés. Et tu leur dises dans les yeux, vous ne comprenez rien, vous êtes des ordures.
Je vous écoute, Daniel. Je vous écoutais. Je vous écoutais avec Luc Dayang, avec quelqu'un que je respecte.
Est-ce que tu es allé, Daniel?
T'es chiant, t'écoutes pas, en fait. On peut pas te parler parce que t'écoutes pas.
Ça fait 10 ans.
Est-ce que t'es allé au contact des migrants?
Non.
Mais si, on l'a fait. Tais-toi, deux secondes, bon sang.
Essaye d'écouter les gens
quand on te parle. Essaye d'écouter les gens qui vivent là-bas, ceux qu'on a rencontrés, à qui tu parles. Tous ces gens,
pardon, tu te balades dans la rue, tu vois les Saoudiens, les Tunisiens, ce monde arabe qui est heureux d'avoir accueilli la Coupe du Monde et qui en a rien à foutre de ce que tu dis.
Ça, c'est pas vrai.
Ils en ont rien à foutre de ce que tu dis, Stéphane. C'est en dialoguant avec eux ou c'est en les braquant que tu vas réussir les choses? C'est en faisant quoi que tu vas réussir à faire avancer les choses? C'est en leur disant que c'est des ordures?
Est-ce que tu es allé là où ils vivent? Là où vivent les gens? Je te parle pas des gens qui vivent dans les rues à Doha où t'as passé du bon temps. C'est pas ça le débat. Est-ce que t'es allé là où vivent
de bon temps? Là du matin au soir quand on est là-bas.
Je sais bien.
Arrête de dire n'importe quoi.
Du bon temps.
Au bout d'un moment, tu peux pas insulter les gens en permanence, Stéphane.
J'insulte personne.
On te laisse insulter
les gens qui insultent. C'est pas moi qui insulte.
Mais on te laisse te raconter.
Daniel,
est-ce que t'es allé? Est-ce que t'es allé?
Tu m'avais dit la semaine dernière quand on en a parlé, tu m'as dit 20 minutes.
Pardon.
Comme vous n'êtes pas d'accord, vous ne tomberez pas d'accord au final. Donc j'aimerais qu'on arrête pour pouvoir avancer, parce que sinon on passera à côté de quelques infos importantes. Il y en a une sur laquelle je voulais vous faire réagir quand même, et surtout faire aussi une mise au point. Hier, on parlait, pour revenir à l'équipe de France, des familles des joueurs. Alors les familles des joueurs sont arrivées ce soir. Et vous savez que les joueurs ne sont pas contents parce que la Fédé ne prend pas en charge le déplacement des joueurs. En fait, le déplacement des familles. Il s'avère que donc, les joueurs ont pris en charge les deux tiers du coût du déplacement des familles. Donc il reste un tiers aux frais de la Fédé. La Fédé qui a par ailleurs détaché deux salariés auprès des familles des joueurs, pour les accompagner au quotidien, peut-être faire des sorties dans le désert, j'en sais rien, gérer leurs petits soucis. Moi hier soir, vous étiez pas là, mais j'ai dit dans l'after que je comprenais pas que la Fédé mette ne serait-ce qu'un centime d'euro pour s'occuper du déplacement des familles des joueurs. Ils ont quand même largement les moyens.
Il y a quelqu'un qui va te contredire là-dessus?
Hier soir
quand tu l'as dit, tout le monde était d'accord avec toi, j'imagine.
Oui, il n'y a pas eu trop de réactions.
Tu veux dire de plus?
Oui, mais Daniel, c'est un truc installé depuis des années. C'est quand même surréaliste. Un avion affrété pour faire venir les compagnes des joueurs, détacher des salariés de la Fédé pour s'occuper d'eux. Moi je trouve ça dingue.
Complètement dingue, effectivement.
Alors après, on va pas te faire le démago en te disant oui, c'est de l'argent qui aurait pu aller au petit club. La Fédération française de foot.
Un peu quand même.
Oui, un peu quand même. Enfin,
c'est pas être démago, c'est pareil, c'est pas être démago, bien pensant, que de dire qu'effectivement,
l'équipe de France. Qui aurait pu être utilisé mieux, quoi, en voilà, tout cas, cet
argent. Quand on voit le salaire moyen, je reconnais le salaire moyen d'un joueur de l'équipe de France, et qui est pas capable d'inviter, toute sa famille, enfin, bon, c'est
assez. Oui, même un mois et demi, s'ils veulent,
oui,
au Qatar.
Oui, oui. Ah, ils disent que, genre, j'ai lu un article dans l'équipe où ils disaient que les hôtels étaient chers à Doha, j'ai pleuré.
Mais le j'aimerais même savoir ce que ça veut dire faire venir les familles. Parce qu'ils n'ont pas tous des familles. Est-ce que c'est ta femme, si t'es marié,
qu'ils aient besoin,
enfants,
moi je comprends
pas. C'est qui en fait? C'est qui en fait la famille quand
ils disent
ça?
Les parents, les frères et sœurs, les compagnes.
Prenons le cas de Mbappé qui, à ma connaissance, n'est pas marié. Il a une fiancée, une petite amie, j'en sais rien. Il a fait venir elle. La maman, elle compte dans quoi? Elle compte dans famille. Ouais. Le papa, il y est parce que
je crois qu'ils ont le droit à 4 par personne.
Il y a un nombre et tout. Et évidemment que c'est complètement.
Il y a deux questions
évidemment
différentes.
Évidemment, c'est fou de payer le voyage que la Fédé fasse ça. Évidemment,
il y a une autre catégorie évidemment. Personnelle parce que tout dans le monde du foot, tout le monde ne roule pas sur l'or non plus. Hein. C'est-à-dire que les kinés, France, les analystes vidéo, les intendants, etc. Bon, peut-être que eux, effectivement. Mais bon, moi, quand RMC vous envoie les gars passer un mois au Qatar, ben c'est long, c'est vrai. C'est dur de. On travaille beaucoup, c'est dur d'être privé des siens, mais RMC ne vous envoie pas en avion avec votre femme et vos enfants. Hein. Ça s'appelle le monde du travail, la vie, quoi.
Oui, et ne propose même pas de payer un tiers du voyage des familles pour toutes les. Et on n'y pense même pas à les faire venir, c'est même, en fait. C'est ça qui est fou. Mais nous, on n'y pense même pas. Moi, je suis déjà. C'est surréaliste.
Qu'est-ce que tu veux.
Vous avez un avis, les gars, autour de la table, là ou...
Alors, moi, j'ai un canapé dispo.
Ah très bien. Tu veux sous-louer.
Voilà, si un joueur est embêté,
faire du woofing chez Richard.
Il peut même son chien ou son chat, à la limite, je prends.
Bon, enfin voilà, c'est un petit coup de gueule.
Sachant que je vis dans une résidence où il y a déjà tous les Anglais, j'ai Alan Shearer, j'ai Rio Ferdinand, j'ai Gary Lineker, les mecs de la BBC, et Mauricio Pochettino.
Ils louent des apparts dans ton
ouais,
immeuble.
Dans mon immeuble, et ils nous piquent tous les transats à la piscine. C'est un scandale que je tiens à dénoncer.
En effet. Bah écoute, je te soutiens dans ce combat, Richard.
L'anglais est envahissant.
Oui. Ouais. Ah ben, alors, s'il y a un match France-Angleterre en quart de finale, t'es pas bien, toi.
Ah si, parce que comme on va les tordre, je peux te dire qu'à la piscine, ça va chanter.
Très bien. Allez, dans quelques instants, on est de retour avec le reste de l'actu. Faut que je vous parle longuement du Brésil dans quelques secondes, parce qu'il y a plein d'actu sur les blessés au Brésil. Des bonnes nouvelles pour Neymar, mais des mauvaises nouvelles pour d'autres. On fait le point dans quelques instants, et puis l'interview de Nasser Al-Khelaifi sera également au programme d'ici minuit. À tout de suite.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Gilbert Brivois.
Jusqu'à 1h du matin, l'after continue. Il est 23h41 en France, 1h41 ici au Qatar, de minuit à 1h du matin. Tout à l'heure, c'est la libre antenne. Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, et puis on a ici au Qatar, dans notre studio, des supporters de l'équipe de France, Benjamin, Michel, Richard, sont là. Avant de parler du Brésil, une déclaration de Colina. Vous savez, les gars, concernant ces fameuses affaires de temps additionnel à rallonge, Colina s'est justifié. Alors en fait, il avait expliqué avant que les consignes.
Ça, il avait eu la conférence de presse, il avait tout expliqué.
Alors là, il a dit, si vous regardez, il y a 4 ans en Russie, le temps additionnel moyen s'est élevé à 6 minutes et demie, dit-il. À l'époque, 6 remplacements étaient possibles contre 10 aujourd'hui. Donc ça fait 4 remplacements supplémentaires qui ajoutent une minute à chaque fois. On est donc passé de 6 minutes à 10 minutes. C'est pas énorme en soi, dit Colina, qui explique qu'il avait quand même pour objectif d'augmenter le temps de jeu actif. Voilà, il dit, l'objectif, c'est d'avoir en moyenne près de 50 minutes de temps de jeu actif. Donc sur une heure de temps de jeu actif sur 1h30 de match, en quelque sorte. Et puis il utilise cet argument que je vous livre. Il dit mais finalement, quand vous allez à un concert, vous êtes heureux, vous en demandez encore un peu, vous demandez encore un peu plus de la part du chanteur, un petit peu de bonheur en plus. Et bien finalement, c'est ça, le temps additionnel en plus, dit
Colina aujourd'hui. C'est du bonheur en plus.
Moi, j'ai appris cet après-midi, j'ai discuté avec, ça n'a rien à voir comme sujet, mais ça nous ramène aux histoires d'heure. J'ai discuté avec un organisateur de festival de musique, là, et je ne savais pas, les artistes sont payés à l'heure. Quand vous faites venir, je ne sais pas, Lady Gaga ou Orelsan à un concert, c'est à l'heure.
Et s'il y a 3 rappels, c'est pour la poche de l'organisateur.
Ben, c'est un peu ça quand même, quoi.
Non, mais Daniel a apporté un autre argument tout à l'heure, c'est que demain, si tu as 10, 12, 13, 14, 15 minutes de temps additionnel dans un match, effectivement, la tactique Atlético de Simeone, par exemple, peut-être qu'il va la revoir un petit peu. Parce que
non, mais de ce point de vue-là, c'est un vrai progrès du foot.
Mais après, est-ce que tout le monde va suivre? Je sais pas si la Ligue 1 va suivre, par exemple.
Parce que moi, j'aimais bien aussi l'idée que bah, tu pourris la fin de match, c'est ta culture, c'est ta tradition. Moi, je suis contre l'uniformité des cultures de toute façon. Et si les Sud-Américains sont truqueurs, moi, je trouve que c'est très bien. Parce qu'il y a des pays qui sont pas comme nous et il faut respecter ça. Maintenant, l'argument de Colina, là où il est juste, c'est que à partir du moment où tu as eu 5 changements, forcément, tu avais plus matière à perdre du temps. Donc, tu étais obligé de suivre. Il a raison quand il dit il y avait 6 changements possibles, 3 plus 3. Et là, maintenant, tu en as 5 plus 5. Donc, qu'on prenne un peu plus de temps additionnel, ça me paraît logique aussi.
Alors, info brésilienne maintenant. Déjà, vous dire que ce soir, nous recevons... Alors, on a reçu des nouvelles contradictoires toute la journée sur l'état de santé de Pelé. Donc qui est en soins intensifs, cancer, évolue mal. Mais ce soir, il y a un communiqué de l'hôpital qui est plutôt rassurant. Alors bon, du coup, c'est un peu communiqué contre informations qui sortent au Brésil. Donc à vrai dire, on ne sait pas vraiment. Hein. Donc évidemment qu'on espère pour lui que tout va aller comme il faut. Mais enfin, les nouvelles sont quand même plutôt inquiétantes. Nouvelle, en l'occurrence, plutôt rassurante cette fois pour Neymar, qui lui est finalement peut-être apte à jouer le huitième. Ça semble assez étonnant quand on voit l'état de sa cheville il y a quelques jours là. Donc je rappelle que le Brésil
joue après-demain. Un risque serait un peu absurde vu le huitième, vu le tableau huitième qui se propose à eux.
Brésil, Corée du Sud.
Ils vont se faire bouger.
Moi je veux bien que les Sud-Coréens refassent, mais
tu crois pas? Tu crois pas, Daniel?
Si, si,
moi,
c'est possible, bien sûr.
Une équipe dynamique.
Aujourd'hui, honnêtement, il faut plus trop se risquer parce que vu ce qu'ils ont fait jusque là. Mais si t'es à la place du coach brésilien, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je préserve encore un peu.
Moi, je mets Neymar dans le frigo.
Ouais, j'attends encore le quart, moi. J'attends le quart de finale.
Alors, tout de même, attention, parce qu'ils ont perdu 2 joueurs aujourd'hui, les Brésiliens.
Ils sont plus d'arrière-gauche.
Voilà, 2 joueurs qui déclarent forfait, Alex Telles et Gabriel Jesus. Donc, forfait pour le reste de...
Tu vois, quand l'autre fois, vous pleuriez tous sur les arrières-gauches et que je disais, mais vous voulez pas d'attendre d'être dans la merde pour commencer à pleurer? Bah, eux, maintenant, ils ont plus d'arrière-gauche. Nous, on en a encore un.
Un seul,
oui, comme dit Richard.
Exactement, mais t'en as encore un.
Eh oui.
Bon, là, alors Danilo, Alexandro, eux devraient revenir. Alex Telles et Gabriel Jesus.
Alexandro, ils devraient revenir, t'as dit?
Oui.
T'es sûr de ça?
C'est l'info que j'ai là, sous les yeux. Hein,
bon.
Le dossier RMC Sport.
Chaîne
de référence, site de référence en qui j'ai toute confiance.
Très bien, alors, pas de problème. Bon, alors ça va, ils en ont.
Voilà pour le Brésil et ces infos. Brésil qui est évidemment très scruté ici dans l'actu Coupe du Monde. Qu'est-ce que j'ai d'autre là avant qu'on aborde le cas Nasser El Khelaifi, parce qu'il faut qu'on en parle. Ah oui, si, quand même, Emmanuel Macron. On apprend qu'Emmanuel Macron en fait parle avec Didier Deschamps après tous les matchs. Il se passe un petit coup de fil. Il se fait un petit débrief.
Ouais, c'est pas mal.
Voilà. Et il dit, voilà, j'ai beaucoup d'estime pour Deschamps.
C'est pas politique, hein, n'oublie pas quand même.
Non, pas du tout. C'est ce qu'a dit Macron lui-même. Il dit, je l'ai eu effectivement après chaque match. Collectif très fort, solide, dit Emmanuel Macron qui pronostique un 3-1 demain face à la Pologne.
Ah oui, les Polonais vont mettre un but. Très bien.
Oui, c'est ce qu'il dit. Il voit un but de Lewandowski.
Très bien. Il a pris un gros risque. Il a pris un très gros risque.
Ouais, effectivement. Écoute, là,
3-1, c'est propre, hein, c'est bien. Hein.
Voilà. Et puis tiens, puisque on parlait tout à l'heure de messages politiques et de messages vers les minorités, sachez qu'au Brésil il y a un débat qui fait rage. C'est l'utilisation par le défenseur Bremer du numéro 24. Parce qu'en fait le numéro 24 au Brésil, pour plein de raisons que je pourrais vous expliquer, parce que j'ai là aussi un papier des RMC Sport, site de référence, est associé à l'homosexualité au Brésil, et il était inutilisé depuis des années parce que aucun joueur ne voulait le porter. Mmh. Alors, ce qui avait provoqué évidemment parmi la communauté LGBT au Brésil des débats en disant mais il y en a quand même un qui va nous soutenir et qui va prendre un jour le numéro 24 pour lancer un signal et tout. Ben non, pendant des années, personne n'a voulu du 24 dans l'équipe du Brésil. Et là, Bremer, lui, l'a fait. Il a joué avec le 24 et du coup, ça a été salué par la communauté LGBT au Brésil. Je vous le glisse comme petite information du soir. Et j'en arrive maintenant à Nasser Al-Khelaifi qui donne donc une longue interview puisqu'il est là depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, où il reçoit, où il joue au paddle avec toutes les grandes stars du football tous les jours. Stéphane, c'est son petit rituel hein, tous les matins. Il y a paddle pour Nasser Al-Khelaïfi avec quelques anciens grands joueurs qui se sont mis eux aussi au paddle. Donc bah, il fait aussi ses RP en quelque sorte, Nasser Al-Khelaïfi.
Ah bah oui, il a raison.
Il y a son ami président de l'UEFA, Seferin, qui est aussi là, bien présent. Et donc là, on a quand même un Nasser Al-Khelaïfi assez...
Son ami, tu veux dire son adjoint?
Oui, pardon.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai. L'homme à qui il donne les consignes, en effet. Voilà. Là, il est quand même assez offensif dans l'interview du jour dans l'équipe, sur un peu tous les sujets. Hein. Vous avez vu ça. Que ce soit le Qatar ou le Paris Saint-Germain, il envoie des messages très clairs à Anne Hidalgo. Moi, je m'étonne quand même d'un truc, avant qu'on rentre dans les détails. C'est que dire aussi ouvertement et menacer aussi ouvertement de quitter le Parc des Princes, qui est quand même le stade emblématique d'un club, je veux dire, un stade est associé à un club. Comment c'est possible de les dissocier? Voilà. Je trouve qu'il y a assez peu de réactions finalement des supporters du PSG pour l'instant sur cette affaire. Je sais pas si
est-ce qu'on leur a posé la question?
Mais non, mais même moi, je suis allé voir réseaux sociaux, consulter autour de nous. Alors soit tout le monde est pris par la Coupe du Monde.
Oui, on en a. Et se désintéresse en plus, un petit peu du sujet. Même nous, on n'en a pas parlé, alors que ça fait deux semaines que les premiers échanges entre la mairie et...
Si la mairie veut rien savoir, on s'en va. Mais tu t'en vas où, mon gars? Enfin, c'est quand même assez incroyable les déclarations du jour de Nasser Al-Khelaïfi, non?
Ça montre un visage. Il est désinhibé. Hein. C'est la première fois qu'on lit un Nasser Al-Khelaïfi effectivement aussi peu diplomate, aussi offensif. Donc, je pense que cette Coupe du Monde là, ça l'a désinhibé. Quoi. Maintenant, c'est.
Parce qu'il parle d'ici, de chez lui. Tu vois.
Qui nous aime, nous suivent et basta, quoi.
Oui, c'est un peu ça.
C'est un peu le message qu'il envoie. Après, c'est un sujet. Il a pas que de faux arguments à faire valoir là-dedans. Hein. Ils ont effectivement, faut le reconnaître, beaucoup investi dans un stade qui leur appartient pas, etc. Après,
80 millions, dit-il.
S'ils veulent acheter le Parc des Princes, ça a un coût quand même et un prix, et c'est assez simple de le faire évaluer à son juste prix.
Exactement. Bon, tout le monde sait ce que je pense de lui en tant que président du PSG. Hein. Tout le monde sait que je ferais beaucoup mieux que lui. Maintenant, son interview est excellente. Dans le sens où effectivement, lui qui est toujours dans la langue de bois et qui dit jamais rien, là au moins il dit les choses, il dit ce qu'il a dans la tête et dans le cœur sur plein de sujets. Sur ce dossier-là, évidemment qu'un PSG qui quitte le Parc des Princes, c'est un PSG qui n'est plus le PSG. On passe à une autre histoire.
Bah oui.
Et en gros... Moi, à titre personnel, ça n'est plus le PSG. On est dans autre chose. Et comme a dit Stéphane, ceux qui voudront suivre, suivront. Et puis ceux qui voudront pas suivre, rangeront le livre d'histoire et passeront à autre chose. Une fois qu'on a dit ça, on est bien obligé quand même de, comme tu l'as dit Stéphane, de lire des arguments qui sont justes. Et la mairie de Paris ne peut pas continuer à lui chier sur la gueule aussi ouvertement. Parce que ça reste un homme qui a énormément investi avec le pays qu'il y a derrière. Et on peut pas venir lui dire aujourd'hui, c'est 350 millions. Parce qu'effectivement, ce qu'il peut dire, lui, et ce qui serait, parce qu'attention, il y a plusieurs questions. Il y a, je déménage au Stade de France. Et là, c'est la révolution. Et là, personne y va. Et c'est la guerre. Et les supporters n'iront pas.
Bah, c'est un nouveau club qui se crée quelque part.
Exactement.
Une nouvelle histoire.
Et il y a, je construis un nouveau stade. Et construire un nouveau stade, ça coûte ce prix-là. Mmh. Et là, ça ressemble à ce qu'a fait Arsenal avec Highbury.
Ça demande quelques années quand même.
Exactement. C'est pas exactement la même chose.
Sauf qu'attention, Daniel, à ce stade, je t'arrête. Highbury ou autre, tu construis un nouveau stade, on va dire, dans un environnement assez proche.
Exactement.
Là, construire un nouveau stade, je continue à aller à 40 km de Paris.
À titre perso, exactement comme a fait Lyon avec Jarlan. Je continue. Les Lyonnais, ça les a pas empêchés d'aller maintenant à Décines pour voir les matchs. À titre perso, bon, en même temps, Jarlan était vieux, ce qui est pas le cas du Parc des Princes. À titre perso, qui construisent ailleurs et tout, je continue à penser que ce serait une faute, une énorme erreur, et ce serait plus mon PSG, ça c'est certain. Mais je peux comprendre sa démarche. Et comme a dit Stéphane, le truc simple, c'est de dire combien ça vaut vraiment. Évaluons ça. Et est-ce que la mairie est prête à vendre? Le PSG a fait beaucoup d'investissements. Effectivement, l'idée de rapprocher les tribunes, enfin l'espace qu'il y a derrière les buts, de trouver une solution par rapport à ça, ça peut être une bonne idée, mais ça va prendre du temps. Où est-ce que va aller le PSG pendant ses travaux? C'est un gros projet qui va changer la nature du club pendant quelques années s'ils vont au bout de leur réflexion. Mais que lui aujourd'hui dise Anne Hidalgo, elle nous chie dessus avec son histoire d'écran géant alors qu'elle est venue pendant 10 ans au Parc des Princes boire notre champagne, pour faire simple, franchement, c'est absolument honteux. Pareil, l'adjoint que personne connaît là, qui se permet de donner des grandes leçons et de jouer et de jouer les chefs d'État là, lui aussi, franchement, il est absolument ridicule. Et Nasser Al-Rayafi a raison de dire devant les micros, il joue le barbeau. Et puis quand il vient devant moi et il a boucle, il dit plus rien. Pour le coup, ça m'a fait plaisir qu'il ait ce discours assez offensif. Maintenant, on va voir jusqu'où ce qui est une sorte de combat politique va mener le club, parce que c'est quand même ça qui est le plus important. C'est savoir où va aller le club et quelle sera l'issue de cette discussion assez violente.
Qui prend une tournure assez violente. T'es venu là avec ton maillot du PSG, donc j'imagine que cette question-là te fait réagir, même si tu suis le PSG.
Alors moi j'ai une histoire particulière avec ce club, parce que j'ai fêté cette année mes 40 ans de supporter du PSG. Je suis devenu supporter du PSG le 15 mai 1982, le soir de la finale PSG Saint-Etienne, dernier match de Michel Platini en France. Et je suis devenu totalement fan de ce club depuis 40 ans. Donc évidemment j'ai un avis, quitter le Parc de Princes, en effet c'est inenvisageable. Il a raison Daniel, ce sera plus le même club. Bon, après on peut se dire ok, Arsenal a changé de club, Lyon a changé de stade, la Juve a changé de stade 3 fois. C'est toujours resté la Juve. Maintenant, est-ce que c'est possible à Paris de quitter cette enceinte? Parce que la particularité du Parc des Princes, c'est qu'elle est dans Paris intramuros, à la limite, mais intramuros. Je vois qu'une seule solution, qui est irréaliste, Daniel, ne t'emporte pas, c'est de faire un stade à Saint-Germain-en-Laye. C'est tout. Paris, Saint-Germain, on garde l'histoire. Mais sinon,
oui,
on ne peut pas quitter le Parc des Princes.
Il y aura un trait d'union dans l'histoire.
Mais bien sûr, la seule solution, c'est Saint-Germain-en-Laye.
Voici, parce qu'il y a des terres là-bas.
Oui, mais c'est le 78, ça reste le 78. Mais la seule solution, c'est de faire un stade à Saint-Germain-en-Laye. Ce qui fait que tu réunis l'histoire. Mais c'est la seule solution.
Par contre, il y a une grosse faille, à mon avis, dans son raisonnement, c'est quand il dit qu'est-ce qu'il faut du Parc des Princes. Je veux dire, vu les problèmes de stade à Paris, il y aura le Paris FC sera ravi, par exemple, avec une autre histoire, avec un autre projet, de recueillir.
Justement, ça pourrait booster.
Exactement. Quand on voit tous les problèmes qu'ont les clubs parisiens pour trouver des terrains.
Je veux pas casser le moral à Richard par ailleurs, mais il voulait enlever Saint-Germain du logo. Hein. Je te signale.
Oui, mais non, mais c'est pour ça. Moi, je pense que de toute façon, le PSG,
ils ont juste enlevé le berceau du logo.
Notre auditeur du Qatar, là, ce PSG-là n'existe plus. Mais depuis 10 ans, le PSG d'aujourd'hui ne s'est jamais inscrit dans la continuité de ce PSG-là.
Si. Ils ont fait beaucoup d'erreurs là-dessus que j'ai dénoncées, mais ils ont également essayé de recoller pas mal de liens avec l'histoire quand même. Si.
Messieurs,
si.
C'est fini.
Dieu
merci.
Sait que quand ils ont
merci Richard, Michel
avec,
et Benjamin.
Vouloir changer la musique et tout, on était les premiers à les
merci
dénoncer.
Beaucoup. Je précise que c'est Emilien qui a gagné le maillot Foot Corner ce soir, maillot de l'Angleterre. Bravo Emilien.
Gagnez votre maillot sur RMC avec Foot Corner. Jusqu'à 70% de réduction sur les plus grandes marques de sport, c'est la Black Week. Jusqu'au 28 novembre sur footcorner.com.
Thibaut Jeanrand est là pour la libre antenne de l'After. Salut Thibaut.
Salut Gilbert, salut tout le monde. Effectivement, la libre antenne qui arrive dans un instant, en direct jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs de cette Coupe du Monde. On vous attend au 32-16. Vous le savez maintenant, c'est vous qui faites cette émission. Vous nous appelez, vous parlez de ce que vous voulez. L'Argentine, les Pays-Bas, les Bleus qui jouent demain, tout autre chose. Le 32-16, c'est vous qui choisissez. Nico Villas n'est pas là ce soir. Profitez-en pour parler un peu d'autre chose que du Portugal. N'hésitez pas, je vous attends au 32-16 dans un instant avec l'Ému. On sera en direct vidéo sur la chaîne Twitch. A tout de suite.
Allez, salut Daniel, salut Stéphane. On se retrouve demain soir tous, bien sûr, dans l'After. Après l'équipe de France et après Angleterre-Sénégal.